consacrée à la crainte de Dieu. Alors on peut aussi circuler une feuille pour ceux qui ne reçoivent pas encore par email ou qui ne reçoivent pas le programme et qui ne reçoivent pas par la poste la tristesse de la fraternité, pour ceux qui veulent le recevoir. Donc si vous pouvez écrire, en fait visiblement pour l'adresse email, parce que parfois il y a des
erreurs. Il y a 8 ans.
Bon, tout le monde écoute là, ça va? Oh! Non. Bon, alors ça devient techniquement de plus en plus acrobatique hein, pour le prédicateur, donc je vous demande de bien suivre, comme vous le faites, je suis très édifié, mais sachez que je capte tout, s'il y en a un ou deux qui discutent entre eux, vous en êtes peut-être pas compte, mais moi je me rends compte tout de suite que vous discutez. Bon. Alors donc je vous demande de bien écouter, s'il y a un problème, vous me posez une question à la fin. Parce que la quantité d'énergie à dépenser est assez importante, et donc il faut quand même que je pense un peu à ce que je dis. Alors, un petit avis pratique, voilà, on est en train de remettre sur pied le Rassemblement des jeunes catholiques, qui aura une édition 2006 qui est en train de se structurer, et on aurait besoin de bonne volonté pour les cadres, spécialement de quelqu'un qui aurait des compétences en comptabilité. Donc, à la fin, je désignerai un volontaire... pour faire ça. Alors on va attaquer donc maintenant le thème de l'année. On va parler des dons du Saint-Esprit. Ça va? Il y en a encore qui parlent. Bon, en plus de la salle du bas, bien sûr. On va parler des dons du Saint-Esprit. Donc je vous ai distribué une petite feuille pour faire un peu la vue d'ensemble d'abord. Et puis chaque soir, pendant 7 mois, nous allons égrener les 7 dons du Saint-Esprit que j'ai disposés sur la première feuille en parallèle avec les béatitudes. C'est pour ça que notre démarche, notre causerie, peut s'appeler l'ascension des béatitudes. C'est donc, vous avez sur votre papier une phrase qui ouvre le tir, si vous voulez, qui est une phrase centrale dans le discours sur la montagne. Discours sur la montagne dont on a... Ça va Alix? Ça va, vous suivez? Bon. Le discours sur la montagne... Non mais, vous voyez, c'est donc, je capte vraiment. Hein, quand il y a... C'est le don du prédicateur. Il sait si on écoute et il sait si on n'écoute pas. Ou si on écoute en parlant, parce qu'il y a des gens qui peuvent faire trois choses en même temps, mais pas moi. Donc cette phrase de Saint Matthieu, c'est « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait ». C'est une phrase assez provocante qui se trouve au milieu du magnifique discours sur la montagne qui a été qualifié de résumé de l'Évangile par différents auteurs, dont je crois Bossuet, qui a dit « Les béatitudes sont résumées du discours sur la montagne et le discours sur la montagne, c'est le résumé de l'Évangile ». Donc vous voyez, c'est un passage assez important que la tradition a toujours vénéré, la méditation sur les béatitudes. Et des gens comme saint Augustin ont mis en parallèle les dons du Saint-Esprit dont on va parler avec chacune des béatitudes. Donc cette phrase du Christ est provocante, comme tout ce discours sur la montagne qui est un peu paradoxal, qui sort un peu des sentiers battus et qui est assez effrayant un petit peu, parce que le Christ vient de donner des perspectives beaucoup plus exigeantes que la stricte légalité, si vous voulez, de la loi mosaïque, qui était quelque chose d'important et de religieux, mais qui cependant restait un peu sec et matériel, et il vient de donner quelques conseils. J'ai relu tout à l'heure le passage qui précède juste la phrase de saint Matthieu, et il a dit, bien, vous devez aimer ceux qui vous persécutent, et vous devez saluer ceux qui ne vous aiment pas, parce que si vous n'aimez que vos amis, et que vous saluez que ceux qui vous font du bien, qu'est-ce que vous faites de plus que les païens? Donc faites comme votre Père du ciel, qui fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Et il conclut, soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Donc c'est une phrase un peu inquiétante, parce que qui peut être parfait comme Dieu? Et je pense qu'elle nous pousse à lire en profondeur le discours sur la montagne, et spécialement les béatitudes, comme, si vous voulez, une exhortation dont le Christ est le modèle et dont le Saint-Esprit est le moteur. Vous voyez, c'est très important de voir que le Christ est le seul fondateur de religion qui se présente lui-même comme le centre de son enseignement, qui n'est pas du tout le cas chez Sakyamuni, par exemple, pour les bouddhistes, hein, chez celui qu'on appelle le Bouddha, ni non plus chez Mohammed, pour l'islam, hein, qui est le serviteur principal, mais qui n'est pas du tout présenté comme véritablement celui qui qui doit focaliser nos regards. Parce que le Christ, dans les parties qui précèdent ce qu'on va méditer, a dit « on vous a dit ça, moi je vous dis que ». Et le « on vous a dit », c'est le passif divin dont on a déjà parlé. Ça veut dire « Dieu a dit par Moïse ceci, et moi qui suis sur le même rang que lui, implicitement, je vous dis cela ». Et après avoir donné toutes sortes de conseils qui font aller plus loin dans l'intériorité de la loi, et plus grande distance dans son universalité, puisqu'il vient de dire qu'il faut aimer les ennemis, eh bien, il en arrive aux béatitudes, vous voyez. Il dit « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait ». Alors, il faut lire ça vraiment en voyant que le Christ se présente lui-même comme l'image parfaite de Dieu, et que chacun d'entre nous, par participation du Christ, nous sommes à l'image de Dieu. Et donc la clé qui rend lisible, si vous voulez, le sermon sur la montagne et praticable mystérieusement les béatitudes, c'est vraiment qu'elles sont christologiques. C'est-à-dire que le Christ se présente comme le modèle de ce qu'il enseigne, vous voyez. Et dans le discours sur la montagne, il y a vraiment l'ouverture de tout le programme du royaume nouveau et de la loi nouvelle dont saint Thomas nous dit, la loi nouvelle c'est le Saint-Esprit. Donc le Christ peut nous dire des choses très exigeantes parce que, en même temps qu'il les dit, il les fait. Quand vous allez énoncer les béatitudes, qu'on va les faire tout de suite, dans le rite byzantin, on les chante à certaines messes le dimanche, on chante solennellement les béatitudes, c'est très émouvant, et le Christ, voyez, se décrit lui-même dans les béatitudes. Et nous, qui par la grâce que le Christ nous envoie, par le Saint-Esprit qu'il nous donne, nous sommes non pas l'image de Dieu qu'il est lui-même, lui tout seul, mais nous sommes à l'image de Dieu, et par les souffles du Saint-Esprit, par les dons du Saint-Esprit, nous pouvons faire les pas et l'ascension de la béatitude. Oui, et par le chemin des béatitudes au pluriel. Donc c'est pour ça que j'ai représenté dans le bas de la feuille un double mouvement. Il y a un mouvement de descente du Saint-Esprit sur le Christ, et puis de l'autre côté, il y a un mouvement de remontée de nous sous l'influence des dons du Saint-Esprit que j'ai mis en parallèle de chacune des béatitudes. Nous pouvons faire certains actes très importants qu'on appelle les béatitudes sous l'influence des dons correspondants. Mais il faut bien voir que, vous voyez, ça c'est quelque chose qui est un mouvement dynamique qui est incompréhensible en dehors de la référence christologique. C'est le Christ lui-même qui est la source de la grâce, et c'est la grâce seulement qui nous permet de poser les béatitudes. Vous voyez, les pères de l'Église ont aimé à méditer deux textes d'Isaïe, dont l'un d'entre eux a été le premier texte que le Christ a pris quand il est rentré dans la synagogue de Nazareth, donc dans son pays d'origine. Il a ouvert le rouleau parce que les hommes lisaient à tour de rôle l'Écriture. Donc on leur apportait le rouleau, on a conservé certains de ces rouleaux, très ornés, c'est très beau. Donc il a fait tourner le rouleau pour arriver, donc pas dans le sens qu'on pense, parce que les langues sémitiques ne sont pas écrites dans le même sens que nous, mais donc il a fait tourner le rouleau pour arriver au passage d'Isaïe qui l'intéressait. « L'Esprit du Seigneur repose sur moi. » Et les pères de l'Église ont beaucoup aimé ce passage, ils ont dit que... Ça va ? Bon. Ils ont dit que le Christ était vraiment celui sur lequel reposait en plénitude l'Esprit Saint. Et qu'à partir de ce repos de l'Esprit en lui, il le soufflait vers nous par la grâce sanctifiante, la grâce dont on a parlé pendant tout un temps, dans une conférence dans ces cafés cathés, le Consolateur nous donne la grâce des vertus et des dons, et souffle en nous les dons du Saint-Esprit, qui sont des souffles divins, que nous avons la capacité de recevoir par la grâce baptismale, et sous l'influence des dons du Saint-Esprit, nous faisons l'ascension des béatitudes. Mais il faut bien voir qu'elle est absolument impossible sans les dons du Saint-Esprit. Vous voyez, ce n'est pas une espèce d'exploit ascétique. Le Christ n'est pas un philosophe pré-socratique ou post-socratique qui établit une école, la stoa, le lycée ou que sais-je, et qui enseigne des trucs à ses disciples qui vont tâcher de le faire comme lui ou de le dépasser. Le Christ est vraiment la source du Saint-Esprit. Et donc, sur lui repose la plénitude de l'Esprit, et reposant sur lui, il nous la donne, et comme il l'a dit en commençant son ministère à Nazareth, l'Esprit du Seigneur repose sur moi, il m'a oint, c'est-à-dire qu'il est vraiment Christ, donc Christos en grec ça veut dire oint, Messiah en hébreu, en arabe, ça veut dire le loin de Dieu, loin par excellence, comme le roi, mais il est loin, un titre encore plus particulier, parce qu'il est oint, si vous voulez, de telle sorte qu'il est personnellement Dieu. Eh bien, cet oint, l'Esprit du Seigneur repose sur moi, il m'a envoyé évangéliser les pauvres, délivrer les captifs, etc., et avec toute une symbolique extraordinaire, et en refermant le rouleau, et après il va s'asseoir à son banc, il y avait des bancs sur le côté, il rend le rouleau au Hassan, le sacristain local, et il dit, je vous le déclare, aujourd'hui, cette prophétie est réalisée. Sous-entendu, je suis, l'ère messianique est ouverte, et je suis celui qui est annoncé par Isaïe. Alors évidemment, ça ne plaira pas à ses compatriotes qui vont l'entraîner au sommet de la montagne pour essayer de le, de le lapider, de le précipiter, mais par ce qui rayonne de lui, il empêche ça et il passe au milieu, à l'imparfait, l'évangile nous dit, il allait au milieu d'eux. Parce que son heure n'était pas venue. Enfin, ça montre qu'on n'est pas prophète dans son pays. Donc si vous avez des ennuis pour votre christianisme individuel et portatif ou pour votre état de vie, par rapport à vos parents, votre entourage qui est pas trop, qui vous connaît à fond, qui dit mais non, je te connais, je t'ai vu, c'est pas ça qui te convient, faut pas trop se frapper parce que on n'est pas. Évidemment, les gens qui connaissent toutes les bêtises qu'on a fait quand on était petit, c'est difficile de leur faire croire qu'on est devenu pieux, quoi, enfin qu'on essaye. Quoi. Mais enfin, ça les fait marrer, c'est bien. Comme disait l'abbé Berthaud, que j'ai eu l'honneur de connaître, il disait il faut laisser les mères de prêtres gronder leurs prêtres, c'est un privilège, ça leur fait beaucoup plaisir. Alors sa mère lui disait bah, on dit que t'es devenu une sorte de savant, sauf que t'es toujours ben sot. C'est Berthaud, évidemment, qui parlait le latin très mieux que le breton, parce que le breton était sa langue maternelle. Donc sa maman lui disait ça en lui tirant l'oreille, ça lui faisait très plaisir, et Berthaud écrit de très belles phrases là-dessus. Donc on n'est pas prophète dans son pays. Mais enfin, ça veut dire qu'il a ouvert son message comme ça, l'ère messianique, et il y a une autre phrase d'Isaïe, donc ça c'est une phrase du chapitre 10 d'Isaïe, hein, mais la phrase que j'ai mise ici, sur l'esprit qui repose, l'esprit de sagesse et d'intelligence, de conseil, de force, de science et de piété, ça c'est une phrase du chapitre 11, où on voit justement une sorte de description des effets de l'esprit qui repose sur le Christ en plénitude, et c'est un esprit qui, vous voyez, j'ai mis l'explication des dons du Saint-Esprit, enfin les dons, c'est ce qu'on dit en latin, on dit les dons, hein. En grec on dit le pneuma, c'est-à-dire le souffle, c'est un souffle du côté de la Saint-Esprit, et chez nous c'est reçu comme des dons, c'est pour ça que les deux noms sont valables, en hébreu c'est ruach qui veut dire aussi le souffle. Et donc pour le Christ, vous voyez, on commence par énumérer. On commence par énumérer les dons les plus élevés. Oui, c'est un peu austère d'être assis par terre. Et donc, comme de prêcher debout aussi. Et donc, on commence par la sagesse, l'intelligence, alors que vous voyez que de notre côté, quand on voit l'ascension des béatitudes, en fait, on commence par les dons les plus simples, les plus humbles, qui sont ceux qu'on appelle les béatitudes les plus simples et les plus modestes, qui sont les béatitudes de la fuite du péché. Et après, on va monter aux béatitudes de l'action et terminer par les béatitudes de la contemplation. Mais c'est un double mouvement qui nous montre bien que la vie chrétienne, alors voyez, on commence un peu la partie morale de nos cafés-catés, que la vie chrétienne est indissolublement mystique par l'aspect des dons et ascétique, si vous voulez, parce que sous l'influx des dons, nous posons les actes des béatitudes qui sont des actes de vertu et donc des actes qui demandent notre engagement, notre effort. Un peu comme Saint Jean de la Croix, je vous l'ai dit peut-être déjà, a écrit deux livres qui en fait sont deux facettes de la vie intérieure, de l'aventure spirituelle. La montée, hein, la subida, la montée du Mont Carmel, donc qui assiste sur l'effort ascétique, et puis la noche, la nuit, qui est plutôt l'effet obscur de la foi dans l'âme du croyant qui produit un effet de certitude, mais accompagné d'obscurité. Donc il y a deux aspects, et attention, soyez bien persuadés d'une chose, que le cours que nous faisons là concerne des choses qui ne sont pas simplement décoratif pour les bonnes sœurs, les catholiques efficaces à compétition, à injection électronique, les chanoines patronesses et puis les carmélites. Hein, c'est pour tout le monde. Les dons du Saint-Esprit sont nécessaires au salut. C'est ce que dit Saint Thomas, c'est repris par Léon XIII dans une grande encyclique sur Saint-Esprit. Parce que les vertus, nous les avons, même les vertus théologales, mais on ne les a pas assez bien en main. Donc il faut que le Saint-Esprit nous les mette en main, même la foi, même l'espérance, et de sorte que quand nous les avons bien en main, et bien lui guide notre main comme le patron, si vous voulez, chirurgien ou de l'artisan, prend la main de l'apprenti qui connaît les règles, mais qui n'a pas encore le coup de main. Donc au début, il le guide, vous voyez, jusqu'à ce que lui-même intériorise le mouvement et que ça devienne une seconde nature. Et bien pour nous, la vie chrétienne, nous sommes maladroits, et donc le Saint-Esprit nous prend par la main, et bon, il nous garde jusqu'au bout, quoi. C'est l'avantage, le patron s'en va jamais, quoi. Même quand on a réalisé le chef-d'œuvre qui est celui de notre mort, si on va tout de suite au ciel ou bien la fin du purgatoire, si on a une bonne dose de purgatoire où ça chauffe sérieusement, donc Hartung, il se passe des choses après. Donc voyez, donc ces deux aspects, alors voyez, l'appel à la perfection, il faut essayer de sentir, dans la mesure du possible, que c'est pas, si vous voulez, il n'y a pas, on est chrétien à 10 sur 20, si vous voulez être chrétien à 10 sur 20, et ben vous aurez 9,5 et vous serez collé. Enfin, du montant, on était collé quand on avait 9,5, hein, ou 9,2, bon. Et voilà, et vous serez collé, vous irez en enfer, parce que c'est soit vous allez au ciel, soit vous allez en enfer, donc bougez-vous les gars, hein. Et croyez pas que l'enfer est vide, enfin je le répète pour les nouveaux qui débarquent, hein, de je sais pas où, mais enfin on est très content de les accueillir, mais ils ont peut-être entendu, puis on n'a jamais parlé là-dessus, et l'enfer, il y a malheureusement des tas de gens qui s'obstinent à y aller. Dont vous, si vous ne m'écoutez pas, quoi. Enfin, si vous n'écoutez pas le Saint-Esprit qui utilise mes paroles, quoi. Parce que quelquefois, vous avez besoin peut-être de des choses que vous allez recevoir ce soir pour franchir des obstacles difficiles. Mais vous voyez, cet appel à la perfection, il est pour tout le monde. Parce que c'est pas un truc décoratif, hein. Il y a les cathos à 10 sur 20, et puis les mecs qui se crèvent à faire des RJC ou qui font de l'oraison en plus, etc. Pas du tout. Il faut devenir parfait, c'est-à-dire qu'il faut correspondre à l'image que Dieu met en nous. C'est-à-dire à l'appel qu'il a fait sur nous. C'est en fond réussir sa vie. Il y a un de mes copains là qui s'appelle Fabrice Adjadj qui vient d'écrire un bouquin qui s'appelle Comment réussir sa mort. Et je trouve que c'est un très bon titre. Hein. Anti-méthode pour réussir sa vie, comment réussir sa mort. Parce qu'il était agacé par tous les bouquins, comment réussir son divorce, comment réussir son avortement, comment réussir bidule, sa transsexualité, je sais pas quoi. Parce que maintenant, quand moi je branche, je suis calé sur France Culture dans une des bagnoles qu'on a, qui sont toutes des bagnoles données, sauf celle-là justement. Enfin, il y en a pareil, donc je me mets un peu pour écouter un peu l'air du temps, quand j'ai fini le chapelet. Et alors là, soit c'est des trucs sur l'islam, soit c'est des trucs sur les trans, les bi, les transgenres, la différence pathétique entre le transgenre et le transsexuel, etc. Enfin, tout ça est intéressant, mais modestement quand même. Hein. Alors, non, mais c'est vrai, maintenant, c'est vraiment, ça envahit absolument tout. Mais vous voyez, c'est devenir c'est parfait, c'est-à-dire parfait, ça vient d'un mot qui signifie achevé. Hein. Donc, c'est réaliser, si vous voulez, réussir son existence, quoi. On n'en a qu'une. Hein. Donc, c'est celle-là qu'il faut réussir. Donc, soyez parfait, c'est répondez à l'appel que Dieu a fait sur vous, et c'est-à-dire, soyez vous-même. Vous voyez, c'est pas un truc, faites très attention, que si vous réalisez pas cet appel, ben, vous serez malheureux. C'est pour ça que c'est paradoxal, vous voyez. Le Christ vous dit pas, venez avec moi, on va s'éclater, ça va être le super club med, hein, je suis le gentil animateur en chef, et on va se marrer, la vie va être sympa, yaya et tout. Enfin maintenant c'est plus ces bruits-là, c'est des bruits beaucoup plus énormes en décibels, et avec des lumières stroboscopiques épouvantables. Mais alors il paraît qu'on s'éclate, enfin on se marre et tout, bon. Et alors comme ça, soi-disant, on s'épanouit. Mais le Christ nous dit pas, je vais vous faire jouir, quoi. Ou je vais vous faire marrer, quoi. C'est vrai qu'il y a des aspects marrants dans la vie, il ne faut pas les récuser. Et l'humour est aussi une petite sagesse qui monte de la terre et qu'il faut savoir accueillir. Comme me faisait remarquer quelqu'un, dans les récréations monastiques, il y a souvent beaucoup d'humour. Je lui racontais que la première à laquelle j'ai assisté, j'étais un peu choqué parce qu'il y a un moignon qui a fait un nœud avec... Oui, il y avait deux moines dos à dos et il a fait des nœuds. Enfin, et tu sens encore un peu son pouce, c'était rentré chez les moines à 16 ans, je crois. Enfin, il était assez épanoui, il avait, je crois, relativement réussi sa vie. Et mais voyez, le but, si vous recherchez trop à vous réussir, vous vous raterez, les gars. C'est certain. Parce qu'il y a une pensée de Dieu sur vous, vous êtes à l'image de Dieu, et devenir parfait, c'est réaliser la pensée que Dieu a sur vous. Donc c'est pas facultatif. Hein. Et donc il faut exercer les béatitudes, faire les béatitudes, et pour ça recevoir les dons du Saint-Esprit. Donc cette année, on va parler des sept dons du Saint-Esprit. En fait, bon, on en donne sept, si vous voulez, si vous reprenez là le tableau. Finalement, il y a sept béatitudes principales, et après il y en a deux qui sont les béatitudes de la persécution, mais qui pour saint Augustin et saint Thomas sont plutôt des manifestations des autres béatitudes ou des confirmations plutôt que des béatitudes distinctes. C'est un peu paradoxal, vous voyez. Le Christ dit « Bienheureux ceux qui font ça parce qu'ils seront dans le royaume des cieux ». En gros, toute la récompense est toujours le royaume des cieux. Commencez ici-bas, c'était la liberté de la grâce, j'en parlais avec l'un d'entre vous tout à l'heure. Hein, quand je parle davantage de la vie religieuse, de la vie chrétienne en général, c'est qu'il y a une liberté intérieure, ben on est bien, peut-être pas dans sa peau, un peu quand même, mais au moins dans son âme, quoi. Parce qu'il y a un but, il y a l'agir vertueux, il y a la beauté du monde fait par Dieu, la beauté des êtres vivants, tout n'est pas absurde, il y a un jugement, il y a une justice, et c'est très bien, il faut le dire par exemple face à l'islam qui est complètement obnubilé par le jugement, comme le dernier musulman à qui j'ai parlé, c'était une beurette, enfin si on veut, parce qu'elle était à moitié arménienne, à moitié guadeloupéenne, mais c'est une fille très, très intelligente. Hein. Et elle était passée à l'islam parce que les catholiques avaient refusé de l'exorciser. C'est une baptisée, une catholique de souche. Et alors j'ai discuté évidemment avec elle, mais j'allais pas très loin, donc malheureusement j'ai pas pu changer nos adresses. Et alors je lui disais, mais chez vous c'est d'abord la puissance de Dieu, le jugement, tout ça, et chez nous c'est plus la sagesse et l'amour. Elle a bien été obligée d'en convenir, vous voyez. Mais ça veut pas dire que chez nous il n'y a pas de jugement, les gars. Parce que c'est pour ça que les gars qui connaissent pour que le christianisme gélatineux, ils passent au maximum à l'islam, ou ils s'arrêtent parfois à l'orthodoxie, ou à des trucs, à des dissidences variées, dans lesquelles on leur donne un peu plus de trucs musclés, quoi. Mais c'est pas faux qu'il y a un jugement. Mais ce jugement rend la justice, et c'est bien. La justice n'est pas un mal du tout, c'est un bien. Et même la peine, on va le dire, sous un certain rapport. Et donc, la vie a un sens. Et puis après, il y a le ciel, pour ceux qui se laissent faire par le Saint-Esprit, il y a le ciel. Donc, vous voyez, il y a une liberté quand même extraordinaire. Et devenir parfait, c'est rentrer là-dedans. Et donc, c'est avoir un souffle intérieur, une contemplation, un ciel dans le cœur. Vous voyez, c'est pas simplement un truc extérieur, s'appliquer à copier des modèles. C'est devenir soi tel qu'on est, mais en mieux, avec la grâce, vous voyez. Et donc, ça, c'est un aspect très important pour chacun d'entre nous, l'appel à la perfection. Et faites attention que si on ne se laisse pas, vous voyez, si on méprise la perfection, eh bien, on se cassera la gueule, parce qu'on vivra dans le péché véniel, délibéré, parfois du péché de fragilité, perpétuel, et après on tombera dans le péché mortel, et on s'y installera, on aura beaucoup de mal à sortir. Tant qu'on vit, on peut en sortir, mais attention que c'est... Il faut se rendre compte qu'il y a une dynamique, vous voyez. Et alors donc, par rapport à la question du bonheur, vous voyez, le Christ nous dit bienheureux ceux qui font ci et ça, et au total, bienheureux ceux qui sont persécutés parce qu'ils le font. Parce que de l'intérieur, vous voyez, c'est des choses tellement extraordinaires qu'elles permettent de supporter la persécution. Alors aujourd'hui, on est un peu dedans parce que on est dans une persécution psychologico-hédonistico-débilistico-casse-pieds qui nous font plaire par la radio, par la presse, par les pseudo-autorités dont beaucoup sont démissionnaires, pas toutes, mais quand même beaucoup, en politique, en religion, en intelligence, en université. Bon, alors il faut soutenir les bons profs et les bons curés, si j'ose dire, les bons évêques, il y en a quand même quelques-uns. Mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de chefs, quoi. Et on est persécutés, et puis ceux qui existent, ils n'osent pas parler. Hier, on me demandait dans une réunion, un catéchisme là, que j'ai fait en région parisienne, mais pourquoi les types qui en privé dans un salon vous soutiennent des trucs très bien, quand ils sont à la télé ou dans leur ministère, ils font des trucs hyper débiles. Ben, parce qu'ils ont peur. Et ils ont peur du monde, c'est la crainte mondaine. Donc c'est un peu dommage. Alors nous, les catholiques, bon, ceux qui prennent leur religion au sérieux, on a la chance d'avoir cette finalité, et c'est épanouissant de l'intérieur, vous voyez. C'est pas un truc, si vous voulez, c'est pas une espèce de recette, vous voyez, là, ma musulmane, là, gentille comme tout, elle me disait, non, c'est pas une musulmane, c'est une camerounaise, c'était une autre, là, c'est une catholique, elle me disait, on cherche des exorcistes sur Paris, on n'en trouve pas, alors les gens vont chez Monseigneur machin truc, qui, dans je sais pas quel arrondissement, pour tant d'euros, vous fait l'exorciste, quoi. Un gars, il est de je sais pas quel groupe orthodoxe, plus ou moins contrôlé, mais c'est quand même lamentable, quoi. Donc, demandez à vos prêtres, surtout à nos évêques, de nommer des exorcistes qui croient en l'existence du démon, quoi. Bon, mais alors, je ferme ma petite parenthèse, mais donc, vous voyez, il y a donc une certaine persécution parce que le monde, finalement, s'est fermé en quelque sorte à cet appel de la grâce, et donc c'est assez difficile de vivre les béatitudes. Mais la délectation intérieure qui est donnée par la vie chrétienne est tellement forte qu'elle permet, justement, de porter ces persécutions avec une certaine alacrité. Ça ne veut pas dire qu'on ne souffre pas, mais on souffre en étant heureux, quoi. Tandis que dans le monde, si vous voulez, tout le monde souffre, quoi. Ou alors, si on ne souffre pas, ce qu'on n'aime pas, et on se suicide, quoi. Toute personne qui aime souffre. Mais seulement nous, si vous voulez, les chrétiens, ceux qui ont donné un sens à leur vie par l'adhésion au Christ, ils souffrent peut-être, mais ils ont une espèce de dynamisme intérieur qui est leur adhésion au mystère du Saint-Esprit dans leur cœur et à la béatitude qui s'ouvre déjà en eux. Donc vous voyez, la béatitude de la persécution, c'est une confirmation. C'est-à-dire que si on est capable de porter la persécution, parce qu'on a suffisamment avant dans le cœur la grâce du Saint-Esprit, pour que, on est persécuté un peu, quoi. On n'est pas encore complètement dans le goulag, hein, donc on a quand même encore des bons trucs. Mais ce qu'on a de persécution, finalement, c'est pas très grave, quoi. Vous voyez, je crois qu'il faut bien prendre la truc comme ça. Il faut pas trop faire du dolorisme et dire « Ah, qu'est-ce qu'on en bave et tout, on est vraiment des héros, on n'a jamais été... » Non, vous n'êtes pas vraiment des héros. Enfin, un petit peu, si, vous êtes vachement sympa et tout, puis on ne sait pas où vous mettre dans ce café caté, c'est génial et tout, bon. Alors, c'est très bien, on réussit, si vous voulez, de ce point de vue-là. Mais en même temps, il y en a des gens qui ont fait beaucoup mieux que nous, et seulement ils n'y pensaient pas. Si nous, le problème du monade, c'est qu'il pense à ce qu'il fait, vous voyez. Alors, c'est comme la bicyclette, hein. Si vous apprenez à faire de la bicyclette en vous disant que vous êtes en train d'en faire, vous cassez la gueule, quoi. Donc, nous, réfléchissons pas qu'on est sur une bicyclette et pédalons. Voilà. Alors, maintenant, donc, on va attaquer le premier nom du Saint-Esprit, qui est la béatitude, des pauvres en esprit, des pauvres selon l'esprit, qui correspond au don de crainte. Alors c'est assez paradoxal parce que la peur, si vous voulez, c'est pas quelque chose de très glorieux et les philosophes anciens n'avaient évidemment pas grande estime pour elle, spécialement les stoïciens. C'est plutôt quelque chose qu'il faut refouler, éliminer. Là on dit pas peur, on dit crainte, ce qui est quand même déjà plus sage, plus équilibré. Et on dit que le don de crainte va faire en nous quelque chose de très particulier, c'est la pauvreté selon l'esprit, hein, le don de crainte va nous mettre dans ce que j'appellerais, on appelle ça la pauvreté, moi je préfère ça, on pourrait appeler ça la liberté intérieure, la liberté que fait l'Esprit Saint dans notre âme, qui va nous dispenser des créatures en nous mettant dans une crainte raisonnable par rapport à ce qui est mauvais. Mais alors là, il y a quelque chose de paradoxal, c'est qu'on parle ici de crainte de Dieu. Or, Dieu est bon, comment peut-on, par rapport à lui, si vous voulez, avoir de la crainte? Donc là, il y a un véritable problème. Et saint Thomas le résout de façon très fine en disant, vous voyez, en fait, dans la crainte de Dieu, c'est pas Dieu en lui-même qu'on redoute. On a peur, si vous voulez, du châtiment qui peut nous infliger si nous péchons, et du fait d'être séparés de lui si nous le contristons. Donc, en fait, on a peur de choses qui viennent de Dieu, comme le châtiment, comme on redoute un professeur sévère qui châtie, enfin, autrefois, il y a très très longtemps, quoi, ou des parents qui exercent la juste coercition nécessaire pour éduquer les bambins, surtout avant 3 ou 4 ans, et qui ne leur passent pas tous leurs caprices. Donc faites très attention parce que vous inscrivez des logiciels complètement faux dans vos bébés, comme je le vois trop souvent dans le RER ou ailleurs, ou le TGV surtout, si vous avez des méthodes débiles qui ne tiennent pas compte du fait qu'il y a un composé entre l'âme et le corps et que l'enfant a besoin d'enregistrer les choses par là, un certain nombre de limites et que jusqu'à un certain âge, il ne faut jamais admettre ses refus et des choses comme ça. Alors évidemment, il faut que ce soit plein de tendresse et tout, mais la tendresse aujourd'hui, on la voit, mais la fermeté, ben, elle est quelquefois absente. Alors il y a des caricatures, il y a aussi des parents qui martyrisent leurs enfants. Ben, vu la tête que vous avez, je pense que c'est pas le cas de la majorité d'entre vous, et ce que je pense pas, c'est ce que vous faites pour vos enfants. Mais n'oubliez pas comme l'enfant a besoin d'une référence, vous voyez, parce qu'il n'a pas encore la raison, et pour lui, l'absolu doit être véritablement au fur et à mesure, il pourra enregistrer les motifs raisonnables, donc lui donner dès qu'on peut, mais dans un premier temps, on peut pas. Et le drame aujourd'hui, c'est que les parents font des discours, mais eux-mêmes, ils sont vêtus comme la sciopique, ils sont donc, la maman est pas féminine, le père arrive à 9h30, à pas le temps de s'occuper des enfants, quand il a du temps, c'est pour faire du cheval, ou du hockey sur la glace, ou je sais pas quoi, donc le gosse, il se dit, l'important dans la vie, c'est le job et le cheval, hein, je crois que des trucs louables, enfin, à une certaine mesure, bon. Donc, vous voyez, c'est l'exemple qui compte beaucoup plus, quoi. Si vous ne consacrez pas de soirée à vous occuper de vos enfants, ou de ceux des autres si vous n'en avez pas, ils diront, la vie, c'est de faire autre chose. Alors, ils se réfugient sur le virtuel, la toile, et puis leur jeu électronique, quoi. Mais c'est vous les responsables. Parce que vous n'osez pas exercer, pas que vous, les évêques, beaucoup d'évêques comme ça, beaucoup de profs, beaucoup de politiques, ils n'osent pas exercer la juste force. Quand ils veulent l'exercer pour les limites de vitesse, ils l'exercent, hein. On le voit bien. Donc, je ne vois pas pourquoi on ne l'exercerait pas dans d'autres domaines. Aujourd'hui, il y a une phobie sur la force. Tout se passe bien là-bas? Ça va? Bon. Il y a une phobie sur la force. On a l'impression que tout exercice de la force est contraire à la dignité, mais c'est complètement faux. La violence est mauvaise, mais l'exercice de la force est le droit strict du délinquant et des gens qu'on est éduqués. Et la force, c'est justement une des expressions de l'amour. Bon. Mais alors donc, Dieu est juste, et par conséquent, on peut craindre, non pas lui, si vous voulez, qui est bon, mais le châtiment qui vient de lui si on pêche. Et ça, c'est pas quelque chose de mauvais. Donc, il y a la crainte de la peine, si vous voulez. Et puis, donc, par rapport à ce que Dieu peut infliger. Et puis, il y a une autre crainte, qui est une crainte déjà plus élevée, qui est la crainte de l'offenser, si vous voulez. La crainte d'être séparé de lui, la crainte de la faute. Et la faute, c'est vrai, c'est le mal absolu. Le péché mortel, c'est un mal absolu dans lequel Dieu n'a aucune part. Tandis que la peine, c'est un mal relatif, parce que ça fait mal quand on la reçoit, mais c'est un bien sous un aspect, parce que ça nous fait rentrer dans l'ordre de la justice, et ça nous dispose à l'ordre de l'amour. Comme dit saint Augustin, la crainte, c'est l'aiguille à laquelle est accroché le fil de l'amour. Donc l'aiguille, quand elle rentre, ça pique, et après le fil passe. Et aujourd'hui, tout se déglingue, parce qu'il n'y a pas eu d'épingle pour faire passer le fil. Donc le fil court en surface, quoi. Et donc au bout de quelques années de ménage, on va voir ailleurs si c'est pas mieux, parce que la période fusionnelle étant terminée, comme on pensait que le ménage c'était la période fusionnelle, on est coincé. Parce que c'est pas uniquement la période fusionnelle, ni même l'aspect fusionnel. Et je crois que c'est très important de voir que dans tout amour, il y a une crainte à l'intérieur. La crainte de peiner l'être aimé. Ça ne doit pas nous paralyser, on ne doit pas devenir scrupuleux. Mais dans tout amour, il y a une espèce de respect, parce que pour aimer, il faut être deux. Donc il faut respecter l'autre dans son altérité, donc vu notre fragilité, parce qu'on est toujours maladroit, en communication on n'est pas très bon, etc., on est mauvais, c'est connu, et donc on peut blesser. Et c'est une crainte légitime, vous voyez. Donc par rapport à Dieu, ce que nous craignons, c'est de façon absolue de l'offenser par le péché, la crainte de la faute, et de façon relative, la crainte de la peine. Et la crainte de la peine, ma foi, c'est pas une mauvaise chose. Hein. C'est pas quelque chose d'hypocrite. Hein. Parce que crainte d'être en enfer pour l'éternité, c'est pas bête. Évidemment, si on se dit, ah, s'il n'y avait pas l'enfer, qu'est-ce que je me marrerais? Je ferais plein de péchés derrière la cravate, je m'en mettrais plein et tout, je ferais ci, je ferais ça. On imagine plein de trucs quand même en début, de les imaginer avec le film enclenché, c'était un péché. Bon, enfin, imaginons que c'est simplement virtuel, tout à fait conditionnel, avec les plus que parfait du subjonctif, si vous voulez, mais enfin bon, ça va quand même pas. Parce que vous voyez, là, ça c'est pas de la crainte, ça c'est vraiment la crainte servilement servile, qui en fait se fout de Dieu, et dit, mais quand même, il y a l'enfer, donc ça m'emmerde, mais alors bon, il y a l'enfer, donc ça me fait rire, donc je vais pas faire trop de péchés mortels, quoi. Enfin, je vais avoir un prêtre pas trop loin pour me confesser rapidos après, quoi. Mais attention, parce que ça arrive qu'on rentre dans un platane à 110 à l'heure avant d'arriver au confessionnal. Hein. Donc, faut pas faire ce genre de calcul, quoi. Parce que la confession, c'est pas fait pour en abuser. Hein. Donc, la crainte de la peine, si vous voulez, celle qui est bonne, c'est pas le fait de se dire « je m'occupe que de moi, je me fous de Dieu », le fait de dire « on aime bien Dieu », mais c'est pas défendu de s'aimer aussi. Et donc, dire « bah, j'ai pas envie d'aller en enfer, quoi ». Parce que si vous ouvrez la porte de la chaudière, tu mets le doigt dedans, ben c'est pas 5000 degrés Kelvin que ça fait, ça c'est la température tout à fait superficielle du soleil, même c'est beaucoup plus, c'est des millions. Donc tu mets le doigt dedans, tu vois que ça chauffe, tu le retires vite, quoi. Donc de temps en temps, ça aide, quoi. Ça assoit un peu, ça donne de la liberté. Hein? Parce que c'est vrai qu'il y a... Il y a un enfer, il y a des gens qui y vont, c'est clair. C'est dans l'évangile, et moi je peux vous dire que mon expérience de prêtre me confirme que par ma... Mon ministère, je crois que c'est tout à fait bien vu, la psychologie. Jésus a parlé 14 fois dans 70 lieux différents des évangiles de l'enfer. Et pas pour dire au conditionnel, vous inquiétez pas, l'enfer c'est un truc qui existe mais qui est vide, ce qui n'a aucun sens d'ailleurs, pour un état ou pour un lieu. Mais vous inquiétez pas, donc venez les bénis de mon père, là c'est tout le monde, et puis donc ils sont à ma droite. Bon, venez les bénis de mon père, et puis allez-vous-en au conditionnel. Vous en iriez, vous, si vous en avez des damnés, mais vous inquiétez pas, les gars, il n'y en a pas, quoi. Alors attendez, c'est pas vrai, l'évangile c'est comme une réalité. Hein. Et malheureusement, il y a des gens qui refusent la grâce de Dieu jusqu'à la dernière minute. Alors on ne sait pas lesquels, donc on n'a pas à les juger, et on a à faire l'apostolat de la bonne mort. Moi j'ai eu l'occasion, même avant d'être prêtre, de d'approcher des mourants. C'est vrai qu'il y a une période de grande fécondité pour recevoir la grâce. Mais en tout cas, c'est une possibilité et malheureusement une réalité. Et comme disait Lucie de Fatima, ce que lui avait dit la Sainte Vierge, beaucoup d'âmes se damnent parce que personne ne s'occupe d'elles. Alors qu'avec notre vie chrétienne, on peut en sauver. Hein. Donc vous voyez, il y a une crainte de la peine pour nous et éventuellement pour les autres, qui est quelque chose de légitime. Donc c'est ça que le don du Saint-Esprit, vous voyez, va nous aider à rentrer dans l'ordre de la charité, en nous disant bien sûr que nous aimons Dieu, nous voulons aller le voir, et nous sommes très contristés de l'offenser, donc ça, c'est un sentiment poignant, vous voyez, si vous aimez quelqu'un, si vous avez fait une grosse bêtise, bon, alors on vous dit, ben vous aurez la punition, papa quand il rentrera va te donner une bonne fessée, enfin ça c'était dans les temps reculés, mais enfin ça arrive encore un peu, mais en même temps, la maman, quand vous allez l'embrasser le soir, elle refuse de vous embrasser parce qu'elle dit, j'embrasse pas un vilain petit garçon. Alors là, c'est pire que la cravache, quoi. Je vous parle de choses assez intimes, mais enfin, vous voyez, c'est quand même... On retient ces choses-là, quoi. Et on se dit, la cravache, ça fait mal, mais c'est passager. T'as dit, je suis un sale mec, on fait déjà ça. Mais quand c'est votre mère qui vous le dit, vous dites, ah, t'es vraiment un sale mec, quoi. Donc, faut que t'arrêtes d'être un salaud. Ce qui n'est pas si facile que ça, quand même. Parce que, quelque part, si vous ne croyez pas que vous êtes un salaud, c'est pas pour les garçons, pour les filles, il faudra parler plus gentiment, non. Mais, il y a des chances que vous le soyez, quoi. C'est ce que dit, parce que oui, si on est trop sûr de soi, eh ben, en fait, ce qu'on a de mauvais en nous, on le sait dans l'épreuve. Dans l'épreuve, si votre femme a un cancer ou l'Alzheimer et tout, comment vous allez réagir? Si vous êtes foutu en tôle, qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous allez... Si vous pouvez sauver votre vie en piquant le pain d'un mec qui va crever de faim à cause de ça, est-ce que vous allez le faire? Ah non, mon père, je ne ferai jamais, c'est toi. Je ne sais pas ce que tu feras, personne ne sait. Parce qu'on est tous des salauds. C'est ce que l'expérience des camps a bien montré. Et c'est que la grâce qui nous sauve. Donc il faut craindre, vous voyez, on craint sa faiblesse. Et le mec qui dit, attends, moi, ce mec-là, en général, même si c'était un héros au feu, au bout de 3 semaines de tôle, il s'effondre et il est nul. Et quand ça, regarde, je vous parle d'atôle, mais ça c'est l'expérience, déjà la dernière avant le peloton, hein. Mais rien que la carrière. Hein. Les mecs qui sont des foot de guerre, qui sont contre-révolutionnaires avec un bon porto et sur une cheminée comme ça, dans un appartement d'Archal du 16e, alors sur le terrain... Plus personne. Hein. Là, ils sont en Belgique ou en Suisse. Hein. Ça, je vous parle aussi d'expériences que j'ai vécues. Alors bon, merci bien. Hein. Moi, je préfère le mec qui, à la limite, il est ni catho, ni tradi et tout. Mais quand il y a à se bouger, il se bouge. Et je pense que Dieu lui donne un gras, alors que le mec qui est catho, tradi, qui a reçu tout un tas de trucs et de machin, de ceci, de cela et tout. Puis quand il y a quelque chose à faire, oh ben attendez, moi, j'ai un poste tellement important qu'il ne faut pas que je bouge parce que comme ça, j'arrive au poste au-dessus. Et puis, deux ans après, il dit alors ça y est, maintenant, vous prenez position contre l'avortement. Ça, c'est avant qu'il soit promulgué l'avortement. Ah ben attendez, parce que là, je peux monter encore plus haut, quoi. Oh merde et tout. Alors, quelquefois, il vous file un peu de truc par-dessous, mais c'est nul, quoi. Mais parce que ces mecs-là, c'est des pilates, quoi. Et nous, on a tous cette tendance de pilates, c'est la crainte mondaine. Et c'est là les mauvaises. C'est des mecs qui craignent le monde. Ils craignent qu'on dise c'est des cathos, ou même c'est des réalistes, ou je sais pas quoi. Voilà. Maintenant, quand vous dites qu'il pleut, quand il pleut, ben, vous êtes passible de je sais pas quelle loi, de Debilus 42, modifié 95. Il pleut, alors vous allez dire ça en Russie, ou bien en Israël, mais parce qu'il pleut, alors il ne peut pas dire qu'il pleut, parce qu'il faut beau. Ben. C'est exactement, vous savez, c'est exactement ce qui se passait chez Mao. Hein. Moi, j'ai eu témoignage de Van Quali, qui a suivi le lavage de cerveau, c'est exactement ça. Il fallait dire qu'il pleut quand il fait beau, quoi. Et maintenant, c'est ça. Alors, donc, on a une persécution, bon. Alors, c'est marrant parce que, bon, on peut leur dire merde, quoi. C'est consolant, quoi. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui le disent. Hein, parce que parfois, la politesse, ça consiste aussi à... Enfin, la politesse, enfin, disons, la dynamisme, quoi. Bon, voilà. Alors, voilà. Donc, c'est la crainte mondaine, ça, c'est mauvais. Avoir peur du monde, ben, le Christ a dit, si vous rougissez de moi, moi, je rougirai de vous. Moi, je trouve quand même absolument incroyable combien les cathos sont minables. Enfin, vous êtes très bien, il n'y a pas de doute. Mais, enfin, c'est quand même incroyable, quoi. Ouais. Là, quand je suis arrivé la dernière fois à Montparnasse, c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Ah, mon père là. Non, c'est monsieur l'abbé. Bon, bon, c'est tout faux. Bon. Alors, monsieur l'abbé, machin, moi, ah, je suis une catho, alors me montre, je sais pas quoi, peut-être une bonne sœur déguisée en civil, je sais pas. Ah, moi, je suis catho, tout, mais je voulais vous dire une chose, hein, vous êtes démodé, hein, vous êtes vraiment démodé, monsieur l'abbé. Je dis, ah bon, bah, c'est vraiment gentil, merci de me dire. Et alors, elle me dit, bah, il faut le dire à votre supérieur. Je dis, bah, ça tombe bien, madame, c'est moi le supérieur, bon. Ah, mais vous êtes démodé, j'ai écouté la communauté, moi, je suis le plus vieux, là. Ça attire les jeunes. Ah, bah, si, ils attirent pour les habits et tout. Ah, j'ai écouté, madame, hein, la démodée, c'est vous, et comme manque de charité, ce chapeau, hein, puis je vais laisser, comme ça. Alors, et après, la musulmane, elle était super intime, mais qu'est-ce que vous lisez, là, je veux pas vous déranger dans vos psaumes, c'est pieux et tout, vous avez bien raison d'être pieux, etc. Bon, la musulmane, enfin, qui était une catholique d'origine, alors, c'est vous dire qu'on marche sur la tête, quoi. La bonne femme, là, l'espèce de fossile, catho, gélatineux, machin, trop gros. Elle aurait dû me dire, mais bravo mon père, on est content de voir un prêtre dans Montparnasse, là. Ça met un peu, c'est plus beau que l'architecture fonctionnelle, quand même. Hein. Tout notre ami, il en jette, quand même, un peu. Et alors que j'étais l'arméno-guadeloupéenne, là, qui faut prier pour elle, là, parce que c'est quand même dommage de passer à l'ispam pour avoir des exorcismes, quoi. Et c'est elle qui me félicite, quoi. Donc, je dis, les chrétiens sont quand même mous, quoi. Et c'est parce que depuis 50 ans, on leur raconte des trucs mous, quoi. Tous les dimanches, 25 minutes de mollerie, quoi. Soyons sociaux, accueillons l'autre, pas d'énergie, pas de sport, tout ça, les bons coups, l'amour. Écoutez, s'il n'y a pas plus de Nietzsche, c'est vraiment étonnant. Hein. Moi, de temps en temps, j'envoie un boulet contre l'antisémitisme de Nietzsche. En général, je rate pas ma cible. Bon, là, je n'ai pas encore envoyé cette année, mais ça viendra. Mais qu'est-ce que vous voulez, ça recrute pour le Nietzsche, des machins comme ça. Au minimum, hein, parce que c'est vraiment lamentable. Alors ça, c'est la crainte mondaine. Sous prétexte de charité, c'est pas de la charité, c'est de la gélatine. Et ben, c'est la crainte mondaine, donc ça, elle est mauvaise. Par contre, la crainte simplement servile, elle est bonne. Je ne veux pas aller en enfer, il y a un enfer, je ne veux pas y aller, mais je vais quand même essayer d'aider mes... Et puis ça nous aide à réfléchir. Saint Augustin, qui était un super psychologue, hein, plus fort que Jung, Freud et autres, il disait, il n'arrive que très rarement, à vrai dire, il n'arrive même jamais que quelqu'un vienne se faire chrétien s'il n'est plus ou moins poussé par la crainte de l'enfer, pour se convertir. Donc après, ça aide à réfléchir. Et après, on rentre davantage dans une autre dimension. Oui. Et bon, donc ça, vous avez toute une tradition avec, dans l'Office des Morts, le Dies Irae, enfin, qui est très beau, enfin, qui fait très peur, mais c'est bien d'avoir peur de temps en temps, il faut avoir peur de ce dont il faut avoir peur, quoi. Alors qu'aujourd'hui, on a peur des ombres et on craint la réalité. Alors, vous voyez, en fait, je crois que le don de la crainte, vous voyez, le don de crainte, fait de nous des pauvres selon l'esprit, c'est-à-dire qu'il nous fait abandonner un monde sans visage. Moi, je crois que tout ce dont on nous fait peur, c'est un monde sans visage pour aller vers le visage du Christ. Et donc, vous voyez, c'est pour ça qu'il y a une récompense. Nous posséderons la terre. Bienheureux les pauvres en esprit posséderont la terre, c'est-à-dire qu'on a une liberté extraordinaire. Parce que le Christ est avec nous, et ceux qu'on laisse tomber, ben, c'est un monde qui n'a pas de visage, sinon qui n'a pas de consistance. Aujourd'hui, c'est comme ça, il y a 5 ans, c'est différent. Dans 3 ans, tout sera différent. Ça change, c'est une espèce de kaléidoscope virtualo, machin, internautico, machin truc. Et puis, où est-ce qu'est le stable, où est-ce qu'est le solide? Il n'y en a pas. C'est diabolique, c'est typiquement diabolique, c'est un jeu, si vous voulez, d'apparence, et puis de bouh, de faire peur comme ça dans le noir, hein, avec les cornes, le machin, le diable est ridicule, quoi. Ben, il est redoutable, mais il est ridicule, il faut beaucoup mieux craindre craindre Dieu, si vous voulez, comme infligeant la peine, que le diable, on lui envoie de l'eau bénite et fait un bon exorcisme, mais bon, il faut le craindre aussi, mais si vous voulez, pas très grave le diable, enfin c'est grave si vous voulez, mais il y a beaucoup de gens vouloir parler du diable, alors tout de suite, comment ça va, hein, parler de Dieu, c'est Dieu, c'est un bon mec, alors pourquoi faire Noël avec une grande barbe de Dieu, c'est un cassant de diable, ça c'est cool, ça c'est moussure, hein. Ben, le diable c'est pas vraiment un problème, quoi, les anges, le diable, il y en a tout plein, hein. Il y en a tout plein, ce qui est le problème, c'est que Dieu existe, quoi. S'il y a un Dieu, un esprit infini, quel problème qu'il y ait des esprits finis? Ben, il y a un problème aussi, mais c'est quand même beaucoup moins grand. Donc il y a des diables, et on leur envoie un bon exercice au coin de la bouille diabolique. Bon. Mais ils sont actifs, hein. Et ils sont surtout actifs dans le flou, et dans les demi-tons, dans les machins, pas net, quoi. Et dans l'espèce de kaléidoscope bizarroïdal, là, il est très bon. Alors donc, la crainte du serviteur, elle est bonne. Oui. Mais évidemment, la crainte du fils, elle est meilleure, parce que, vous voyez, la crainte du serviteur, elle va nous soumettre, vous voyez, au chef, par crainte du châtiment, tandis que la crainte du fils, elle va plus loin, elle nous, c'est par affection, si vous voulez. La crainte du fils, c'est vraiment un don qu'on a avec l'état de grâce, et elle nous unit, si vous voulez, elle nous soumet plutôt au Christ, par affection, vous voyez, comme le fils veut faire la volonté de son père, un fils qui travaille, je sais pas, dans la ferme autrefois, dès que les enfants avaient 12-13 ans, dans les fermes, ils travaillaient avec leur père, ils avaient une certaine crainte de lui, ils voulaient être à la hauteur pour les vendanges, pour ceci, pour cela, et ils aidaient, et ils avaient peur du père, qui est un homme sévère. Mais c'était une peur qui venait de l'amour, vous voyez. Parce qu'ils aimaient leur père, et donc ils se soumettaient à lui par affection. C'est très beau, ça, la crainte filiale. Et Saint Thomas dit, il y a un autre aspect de cette crainte, qu'on appelle la crainte chaste. C'est-à-dire, c'est encore plus beau, c'est la crainte de l'épouse, qui se soumet, si vous voulez, enfin, qui est en relation avec son mari, enfin, qui se rend relative à lui, à son époux. C'est une crainte, si vous voulez, qui lui fait... redouter de pas être à la hauteur, enfin de pas être suffisamment uni avec lui par l'amour. Et donc il y a les deux facettes, si vous voulez, crainte du fils et crainte de l'épouse, qui sont applicables toutes les deux à l'âme chrétienne, puisque notre âme est fiancée au Christ et que nous sommes tous fils de Dieu par la grâce. Hein. Donc comme fils, si vous voulez, l'affection nous soumet au Père parce qu'on est content de faire sa volonté, mais on craint de pas la faire bien, donc c'est ça la crainte du fils. Et puis la crainte chaste ou sponsale, on veut épouser évidemment l'âme du Christ, enfin, à qui on a été fiancé aussi au baptême, et donc là, il y a une espèce de crainte assez nourrissante, vous voyez, c'est pas une crainte, ce que dit Catherine de Sienne, c'est une sorte de crainte, mais qui n'abat pas, qui ne dessèche pas, c'est une espèce de révérence, qui est à l'intérieur même de l'amour, et qui est quelque chose de très important. Je crois que c'est un sentiment très profond, que je pense que toute personne qui a aimé a dû le ressentir, vous voyez, il y a, parce que l'amour est quand même un peu une surprise, enfin, le fait d'être aimé, c'est quand même quelque chose d'étonnant. C'est parce qu'on ne pense pas qu'on peut être aimé. Ça, c'est vraiment très étrange quand on y pense. Mais alors, Dieu nous aime, vous voyez. Alors ça, c'est encore plus bouleversant. Et donc, le fait de voir cet amour porté sur nous, on sent, vous voyez, ce qu'on craint, c'est justement cette différence entre celui qui nous aime, hein, parce que par définition, s'il nous aime, enfin, très, quand il y a le retour, bien sûr. Je ne parle pas des amours dramatiques où il n'y a pas le retour, mais imaginons qu'il y ait le retour, parce que le fait d'être aimé, c'est très émouvant, donc il y a le retour. Mais justement, donc... Tout le bien où il nous est en quelque sorte supérieur, on est dépendant de lui. On trouve qu'il est comme bien sympa de nous aimer alors que les autres ne nous aiment pas, ou moins, etc. Bon. Donc c'est quand même très émouvant, et on est donc troublé, enfin pas troublé, mais on frémit, si vous voulez, de la différence entre sa bonté, on apprécie, etc., puis ce mystère du don qu'il nous a fait, et nous on n'est pas à la hauteur, quoi. On a l'impression, on sent notre fragilité, on reçoit ça comme une extase, comme quelque chose d'étonnant, de toujours renouvelé. L'amour c'est toujours nouveau, hein. Que soit le vrai amour conjugal réussi, soit l'amour fraternel ou dans une communauté religieuse, il y a un étonnement. C'est pas... Moi, je l'éprouve avec les très vieux religieux, si vous voyez, qui ont 50-60 ans de profession, qui viennent chez nous, qui sont, je me souviens, mon père spirituel, enfin, qui nous a aidé à faire la fondation, il venait en autostop, toutefois, à 82 ans, il a porté ses couvertures pour pas nous déranger, etc. C'était presque... Mais alors, il était à l'office à 6h du matin faire l'oraison, et quand je regardais cet homme, il y avait entre nous et lui... Bon, on avait tous, le plus vieux avait 50 ans de moins que lui, quoi. Et il y avait entre nous et lui une relation qui est vraiment un prélude du ciel, quoi. Ces types, et puis je me souviens d'un qui avait été un intime de la famille impériale autrichienne et qui avait aussi été 8 ans dans le goulag, alors avec un sourire. Et ce gars-là, il était avec nous comme avant avec des petits frères, hein, c'était... Et parce que, vous voyez, chez les religieux, ça c'est un truc que... Là, c'est vraiment très difficile à expliquer ce que c'est parce que... C'est un amour tellement fort parce qu'au fond, on fait toujours la même chose. On est toujours tendu vers un idéal commun qui est assez humainement un peu un peu, pas banal quoi, je dirais pas difficile, enfin c'est difficile au début, c'est difficile, oui, si on veut c'est difficile, tout est difficile. Mais on fait ça ensemble, vous voyez, pour le salut des âmes, et ça crée une union dont il n'y a aucun, je crois, aucun parallèle, si ce n'est peut-être des mariages vraiment très très réussis, où l'amitié conjugale s'est épanouie au fil des années. Ce qui n'est pas si facile que ça. Parce que l'amitié conjugale est toute une construction qui demande vraiment beaucoup de renoncements, beaucoup de sacrifices. Je lisais dans un des livres du pape actuel, Voici quel est notre Dieu, il disait, si vous voulez supprimer la souffrance, il faut supprimer l'amour. Et si vous supprimez l'amour, ben vous risquez de tomber dans le nihilisme et de vous suicider. Mais quiconque aime va souffrir. Et il y a un très beau passage de Gardini, que je recommande beaucoup aux fiancés et aux jeunes mariés, de parler du second amour du mariage, qui est aussi différent du premier que la maturité l'aide l'adolescence. Donc un amour beaucoup plus construit sur le respect, la construction commune, l'action commune consiste à éduquer les enfants, à aider les autres, à recevoir les célibataires importants, ceux qui sont isolés. Bon, il y a beaucoup de choses à faire et c'est vrai que ça donne, puis d'être un peu, là on a fêté récemment les 90 ans de ma mère, donc c'était assez émouvant parce qu'on voit une vieille dame, qui est vraiment alors d'une autre époque, hein. Et c'est vrai que elle a 90 ans, ça fait 90 ans de rayonnement, si vous voulez, au fond. Parce qu'on parlait de la vocation de la femme, là, avec certains d'entre vous. Ma mère n'a jamais travaillé, enfin, elle a fait que travailler, mais pas un métier, quoi. Et on se dit, est-ce qu'elle a réussi sa vie? Moi, si vous la regardez, je crois que vous dites oui, quoi. Parce que ça paraît évident qu'elle a vraiment réussi la féminité, le caractère spontané et la maternité, la grande maternité, de façon vraiment impressionnante, quoi. Pas parce qu'elle est, simplement. Et donc là, c'est une construction qui est fondée sur beaucoup de renoncements, de séparation, d'épreuves, de souffrances, d'incompréhension, de fidélité, d'éloignement des amis qui vous lâchent dans des épreuves terribles ou qui n'admettent pas que vous preniez des options morales exigeantes, comme le fait de ne pas mettre sur le même plan les faux ménages et les vrais à votre table, quand vous êtes libre, de les recevoir. C'est assez exigeant, c'est pas facile. Je juge personne, je condamne personne, mais je remarque que c'est quand même un témoignage concret qui est beaucoup plus parlant que des discours. Et quand vous êtes maître du jeu, à mon avis, c'est ce qu'il faut faire vraiment. Bon, mais ça, c'est de la croix aussi, parce que comme vous aimez les gens, vous les aimez plus que ceux qui banalisent leur péché mortel qui les mène en enfer, quoi. Parce que ça leur rappelle, vous les recevez, vous les embrassez, vous les aimez beaucoup, mais vous les recevez pas sur le même plan que les vrais ménages, quand vous êtes libre du jeu, quoi. Enfin, il y a des cas particuliers, mais je crois que, en gros, c'est quand même une bonne formule. Donc c'est pour vous dire que, l'amour, vous voyez, il y a cette espèce quand même de crainte révérentielle que Christ lui-même avait dans son âme, vis-à-vis de l'essence de Dieu, qu'il était lui-même, enfin vis-à-vis de son Père, parce qu'il y a l'infini de Dieu, si vous voulez, et par rapport auquel nous sommes comme très déficients, et ce qu'on craint, c'est pas tellement Dieu, comme je vous l'ai dit, mais c'est le fait que de nous sortir de la main de Dieu, de nous dérober à l'amour de Dieu, qui constamment veille sur nous, nous envoie plein de grâce, mais nous on craint de sortir de ses mains, vous voyez. Et donc par la crainte du Fils, eh ben, on a peur que la faiblesse, vous voyez, notre faiblesse, nous fasse sortir de notre place de la création qui est en dessous de Dieu et au-dessus des créatures. Donc c'est une place exigeante, une noblesse oblige, hein. L'homme est roi de la création. Saint Thomas dit quelque part, alors ça sera approfondi en métaphysique, en philosophie des sciences, que toutes les générations de l'univers, donc tous les mouvements, tous les changements, si vous voulez, toute la mobilité, tout l'aspect matériel ou tout ce qu'il y a de changement dans l'univers est ordonné à l'âme de l'homme. Tout l'univers est pour l'âme de l'homme, l'homme est roi de la création. Parce que certains physiciens réaliste, enfin, appelle le principe anthropique, il semble que l'univers soit réglé avec des constantes telles qu'elles permettent l'apparition de la vie, puis de après la synthèse carbonique, etc., une élaboration telle de la vie que Dieu puisse se servir d'une matière organique pour infuser une âme spirituelle. Donc, et si vous variez un tout petit peu les paramètres, de rien du tout, d'indice moins beaucoup de choses, eh bien, toc, ça marche pas. Moi, je me tiens un peu au courant de ces choses-là, c'est quand même assez impressionnant. Alors, c'est pas une preuve, si vous voulez, métaphysique de l'existence de Dieu, malheureusement, si vous voulez, mais c'est une induction physique qui vous met dans le mystère comme Einstein et quelques autres l'avaient lu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez pas mal d'astrophysiciens qui sont bouddhistes, parce qu'ils disent, le mystère, je le trouve dans le bouddhisme. Parce que peut-être on leur propose pas dans le christianisme, quoi. Alors, il faudrait leur filer la nuit obscure de Saint Jean de la Croix pour leur dire, attendez, du mystère, on en a. Alors, continuez vos équations, mais lisez la nuit obscure. Et vous verrez qu'il n'y a pas besoin d'aller lire les Bhagavad Gita, enfin si on peut les lire, mais c'est quand même mieux Saint Jean de la Croix, enfin, à mon avis. Donc la crainte du Fils nous met dans les mains de Dieu, à notre place dans la création, tu l'as couvert de gloire et d'honneur, tu l'as établi un peu en dessous des anges. Vous voyez, c'est un psaume qu'on applique à Adam. Quand Dieu a fait le monde, dans une dynamique extraordinaire qui moi me laisse toujours baba, j'avoue que C'est un des rares regrets, enfin j'ai pas de regrets, mais je vous avais dit que j'avais fait pour les vieux, j'avais essayé de faire un truc inutile, donc j'avais fait des certificats d'astrophysique, parce que je me disais là vraiment ça sert à rien. Donc, c'est sympa de faire un truc qui sert à rien quand tout le monde faisait des trucs pour faire du chiffre, quoi. Et mais maintenant ça sert à quelque chose, paraît-il. Mais ça sert toujours à long terme, la vérité sert toujours, mais enfin dans les années 70, on voyait moins à quoi servait l'astrophysique. Et donc ça me plaisait tout à fait. Mais ça me fascinait, vous voyez, ça me fascine encore de voir la sagesse avec laquelle Dieu a fait cet ordre physique extraordinaire qui permet en effet la constitution à la fois extrêmement variée, mais en même temps unitaire. Il n'est pas impossible qu'on arrive dans quelques temps, quelques années, à exprimer dans quelques équations extrêmement simples l'ensemble des mouvements, enfin des interactions, un aspect de l'ensemble des interactions de l'univers, ce qu'on rêvait depuis 50 ans, mais peut-être qu'on y arrivera, je ne sais pas. En tout cas, c'est merveilleux, ça prouvera encore plus. Si vous voulez, la nécessité d'une intelligence. Einstein disait, si quelqu'un dit qu'il n'existe pas une intelligence infiniment plus infinie que celle de l'homme, c'est un imbécile. Et quand même, Einstein avait oublié d'être imbécile, quoi. Parce que c'est clair, si vous voulez, qu'on ne peut pas. On peut pas, si vous faites tourner une machine, si vous transformez toute le volume de la Terre en truc pour faire de l'énergie nucléaire, vous faites tourner les ordinateurs avec ça, vous n'arriverez pas à exprimer tous les états de l'œil en faisant tourner l'ordinateur pendant 5 milliards d'années. Alors on a calculé comme ça, il y a des seuils, si vous voulez, assez impressionnants, qui situent l'homme, enfin, entre les deux infinis Pascal, mais assez curieusement, l'homme arrive à parler de ces infinis. Ils sont infinis, mais l'homme en parle, vous voyez. C'est quand même incroyable. L'homme est vraiment le roi de la création. Donc les cathos ou les protestants des États-Unis, je pense que parfois, ils ont une peur un peu excessive de la science moderne. Et en particulier de certaines versions, des hypothèses évolutionnistes, parce qu'il n'y a pas actuellement de théorie de l'évolution cohérente et prouvée. Mais bon, des hypothèses évolutionnistes peuvent se dépendre, au moins se défendre à certains niveaux, quoiqu'elles ne soient pas encore établies. Mais alors, il y a des gars qui sont paralysés en se disant, mais attendez, s'il y a la moindre évolution, il n'y a pas de Dieu. Et tout ça, c'est complètement faux. Hein. Et donc, je trouve très dommage qu'il n'y ait pas suffisamment de cathos qui se mettent à étudier ces questions-là, parce que plus il y aura d'évolution démontrée, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, elle est démontrée, si vous voulez, enfin, quasiment dans l'ordre du grand, hein, dans l'ordre de l'espace, il semble que toutes les théories du Big Bang et tout semblent de plus en plus validées. Mais enfin, pour l'infiniment petit, la vie, c'est pas démontré du tout. Mais même si c'est démontré, plus il y aura d'évolution démontrée, plus il y aura de Dieu, si vous voulez. Ou du moins, plus il y aura une base qui exige une intelligence capable de tout régler dès le départ. Et donc plus de finalité. Donc pourquoi avoir peur? Oui, Dieu a vraiment fait le monde pour l'homme. Mais donc, l'homme doit rester maître de ça. Il ne doit pas devenir ivre de ça, et puis d'instrumentaliser le cosmos, de démolir. Donc il y a un aspect de vrai, si vous voulez, dans la révolte un peu bobo, un peu baba cool, etc., stupide de certains écolos, mais il y a quand même quelque chose de vrai, que l'espèce de salissement, si vous voulez, technique de la planète vient d'un manque de sagesse. C'est pas de soi la science ou la technique qui est mauvaise, mais c'est le manque de sagesse, si vous voulez, de l'emploi, et en particulier la vision politique ou apolitique, la vision philosophique ou aphilosophique de l'emploi de la science, oui. Ou tout ce qui est techniquement faisable et moral, ce qui n'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Donc vous voyez, l'homme est dans une situation périlleuse. Parce qu'il a un esprit, il voit tout ça, et c'est grisant quand même. C'est quand même grisant parce qu'on domine, on est au-dessus de tout ça, et donc il ne faut pas que l'on sorte de... Il ne faut pas qu'on sorte de la place où on se trouve, vous voyez. Sous Dieu, mais au-dessus des créatures. Et donc il faut se distancer des créatures parce que le péché nous y fait adhérer de façon excessive. Donc le don de crainte, vous voyez, nous met dans la main de Dieu, de telle sorte que nous nous réfugions, comme dit Toller, je crois, Jean de Saint-Thomas, donc un grand théologien qui a beaucoup réfléchi sur les dons du Saint-Esprit. Il a été traduit par Raïs Samaritain, l'épouse de Jacques, et ça a été publié chez Teki. Si vous trouvez ça chez les bouquinistes, les dons du Saint-Esprit, de Jean de Saint-Thomas, traduit par Raïs Samaritain, c'est quelque chose de vraiment très très beau. Et donc il explique que ce don, vous voyez, va nous mettre dans les mains de Dieu, on se met dans ses mains, on se réfugie de sa grandeur, en se blottissant en lui. Un peu, si vous voulez, comme un être faible, en face de quelqu'un qui est noble, sait qu'infailliblement, sa prière sera exaucée. Parce que la noblesse ne peut pas écraser la faiblesse. Je ne sais pas si les coccinelles qui vous courent dessus arrivaient à vous prier gentiment, ben on ne les écraserait pas. Je sais que les dames n'écrasent pas les coccinelles, elles croient qu'elles sont gentilles. Mais on convient qu'elles nous courent, qu'elles ne nous embêtent pas. Donc il y a la crainte servile, marche toujours. Mais imaginons que la coccinelle nous prie. Ben, on ne l'écraserait pas, quoi, parce qu'elle est trop petite, si vous voulez. Et quelqu'un qui est trop petit, si vous voulez, il faut vraiment casser quelque chose en soi pour le frapper. Enfin, ça n'a pas de sens. Enfin, quelqu'un n'est pas un esprit à l'image de Dieu s'il n'est pas ému par la faiblesse. Et Tertullien dit de Dieu, il y a deux forces devant lesquelles Dieu s'incline, la prière et la souffrance. Enfin, la souffrance offerte à Dieu, présentée vers Dieu, quoi. Donc, comme Dieu est infiniment noble, nous savons infailliblement que notre prière de lui présenter notre faiblesse est infailliblement exaucée. Donc ça, il n'y a aucun doute, vous voyez. Donc, la prière du cœur des Orientaux, vous voyez, la fameuse philokalie, où on dit sans cesse au Christ d'avoir pitié de nous, Jésus-Christ, Fils de Dieu Sauveur, ayez pitié de moi, pécheur, et bien c'est une prière infaillible. Parce qu'on demande une seule chose, c'est que Dieu ait pitié. Vous voyez, on sait que lui, il est noble, qu'il est beau, et nous, on est laid et petit. On dit, ben, je suis petit, me tape pas dessus. Et ça marche. C'est bien, parce que Dieu est quand même... Dieu est quand même très bien, justement. Vous voyez, je pense par exemple, par rapport à l'islam, vous voyez. J'ai pas dit à ma convertie, enfin, à mon apostate, là, qui était très gentil, je lui ai pas dit que plus j'étudiais l'islam, moins je l'aimais. Mais c'est vrai, mais en même temps, il y a des trucs... Vous voyez, je crois que si vous avez affaire à des musulmans, faut pas faire l'apologétique du mépris. Du moins, il ne faut pas que ce soit votre seule arme dans votre carquois. Parce que souvent, c'est des idées vraies, exacerbées, qui les attirent, vous voyez. Et en particulier dans l'islam, c'est la puissance de Dieu. C'est que Dieu est tout puissant, vous voyez. Et je vous l'ai dit souvent, mais ça, c'est le cœur de l'islam, dans la shahada, la confession de foi, ne dit que ça, quoi. C'est quelque chose de négatif, il n'y a pas d'autre Dieu que Allah, et Mohammed et son prophète, c'est-à-dire le Coran est physiquement existe dans le ciel, et physiquement révélé par Dieu, et la seule chose à faire, c'est d'être soumis, et tout homme naît naturellement soumis, c'est naturellement musulman, et donc s'il en sort, c'est un pécheur. Vous voyez, c'est là l'excès de l'islam, c'est que pour eux, l'existence de Dieu est évidente, ce qui n'est pas vrai, parce qu'elle est certaine, elle n'est pas évidente, et donc pour eux, tout agnostique ou tout athée est de mauvaise foi. Ce qui est faux, c'est faux. Mais c'est vrai qu'il y en a qui sont de mauvaise foi, évidemment. Mais alors, ce qu'il y a de vrai, vous voyez, dans leur approche, c'est que Dieu est puissant. Et je crois qu'il faut leur dire, peut-être, écoutez, vous dites que Dieu est puissant, mais votre Dieu qui est puissant, il ne peut pas rentrer en vous. Et il ne peut pas vous diviniser. Parce que nous disons que Dieu, parce qu'attendez, quand un musulman parle de Allah, c'est pas le diable, hein, je vous signale. Hein, parce qu'il y a des chrétiens de fidéistes qui disent, attendez, ils parlent du Créateur, hein, c'est Dieu. Alors ils se trompent sur la nature de Dieu, c'est d'accord. Donc dire qu'ils ont le même Dieu que nous, c'est assez équivoque. Mais n'empêche que c'est bien Dieu, ils adorent le Créateur et ils n'ont pas tort. Bon, eh bien Allah... Nous, les chrétiens, nous savons qu'il est tellement puissant qu'il peut rentrer en nous par la grâce et faire de nous non seulement des esclaves, des serviteurs, ce que nous sommes sur des par nature. C'est sympa, mais enfin bon, on aimerait bien rentrer dans la maison quand même. Hein. Pour le lunch la finale, quand même, c'est sympa. Et alors nous, on dit, il est capable de nous donner une grâce qui fait de nous des fils. Mais écoutez, c'est plus puissant. Dieu est tellement puissant que je suis libre, c'est ce que disait Kierkegaard. Je ne suis pas un père de l'église, hein. C'est un existentialiste moderne et assez angoissé. Hein. Mais n'empêche qu'il avait raison. Dieu est tellement puissant que je suis libre. Et je vous ai cité la définition de Dieu par Gardini. Dieu est l'être tel que quelqu'un qui se soumet à lui de plus en plus devient de plus en plus libre et devient de plus en plus lui-même. Et c'est ça la vraie définition de Dieu. Tandis que quand un musulman me parlait, il disait, ah, moi ce que j'ai besoin c'est de tenu par une loi. Donc j'ai ma prière tous les 5 jours et ça, tous les 5 fois par jour, machin. J'y attends, moi aussi j'ai ma prière 8 fois par jour. J'ai ma règle, celle de Saint-Augustin. Ah, c'est qui Saint-Augustin? Bon, on a discuté. Donc, des lois, on en a aussi. Nous, on a une règle, on fait des machins, des baignades, on plonge, on fait des trucs. Des baignades, des trucs, on apprend le grégorien, enfin, on fait des tas de choses. Mais ça entretient aussi un peu sa lutte contre l'arthrose, accessoirement. C'est pas le but principal, mais ça y contribue. Mais on fait des. Il y a des lois, mais les lois, en tant que telles, si vous voulez, c'est l'expression d'un amour. Pour le chrétien, la loi, c'est le Saint-Esprit. Et si on a la loi du Saint-Esprit dans le cœur, bah évidemment on va faire le jeûne du vendredi, évidemment on va faire quelque chose en carême, évidemment si on est appelé on va être religieux ou prêtre ou machin, on va se dévouer aux autres et on va respecter les lois de l'église de droit canon. Mais c'est fastoche à la limite, parce que c'est tellement incroyable, c'est le Saint-Esprit qui est incroyable, c'est pas le droit canon. Le droit canon il est un peu inspiré par le Saint-Esprit, pas totalement. Là c'est pas mal, hein. J'ai un peu étudié, je me disais ça va être vraiment casse-pied ce truc-là, c'est le droit, je me disais le droit, oulala, mais en fait le droit c'est très bien, hein, c'est une image, c'est une émanation de l'amour de Dieu, enfin de la justice d'abord généralement, et puis dans le droit canon de l'amour de Dieu, et donc c'est magnifique, mais c'est la loi à l'intérieur, c'est l'amour de Dieu qui est la loi principale, et après les lois concrètes sont informées par l'amour de Dieu, et donc c'est fantastique, vous voyez, et je crois qu'il faut leur dire, la loi, nous l'avons, la loi, parce qu'une loi chrétienne, comme le ramadan, d'accord, c'est faut le faire, hein. Mais enfin on bouffe bien la nuit, quand même, hein. Et d'ailleurs le but du ramadan, pas tellement de faire pénitence, c'est de se mettre dans l'état des pauvres qui n'ont pas de nourriture, donc c'est du point de vue de précepte de l'aumône qui est important en islam, hein. Donc on se met comme un pauvre toute la journée, et la nuit on se rattrape un peu. Bon, c'est pas hypocrite, hein, c'est quelque chose de quand même de dur. Mais si vous faites vraiment le carême, ça peut être bien aussi. Hein. Enfin, chez nous, on est plus maigre à la fin qu'au début. Hein. Déjà, ils sont pas très gros en moyenne. Enfin bon, mais c'est pas super, il y a des pays où c'est bien plus dur que chez nous. Mais bon, mais c'est pas le but que ce soit dur, hein, on n'y pense pas, si vous voulez. Moi, je viens d'un vieux dominicain, alors à l'époque, ils avaient le jeûne à partir du 14 septembre jusqu'à Pâques. Hein. Donc, ils annonçaient ça la veille dans le martyrologe. Demain, on disait ça en latin, demain commence les jeûnes réguliers. Alors, la chaleur des fruits comme ça, parce qu'il y avait une espèce de bol de café le matin. Si j'ai... Mais ils ne disaient pas qu'on faisait tous ça. J'étais des novicières qui étaient bourrés, enfin c'était... Parce que vous voyez, la loi, elle n'est pas difficile à porter si elle est animée de l'intérieur. Donc je pense qu'on va dire, la loi, elle est importante, les chrétiens ont tort de dire la loi n'a pas d'importance, la loi liturgique a de l'importance. Ça c'est très important, il faut une cérémonie, on ne fait pas n'importe quoi, on respecte la grande tradition de l'Église, telle qu'elle nous est donnée par l'Église. Donc ça a vraiment une importance, ça incarne l'amour, si vous voulez. Mais c'est l'amour qui est premier. Et donc dans le don, si vous voulez, de crainte, on est armé, si vous voulez, parce que de l'intérieur, on se trouve dans ce rapport qui nous fait craindre la séparation d'avec Dieu, l'offense d'avec Dieu, et qui nous fait, si vous voulez, rester à notre rang dans les créatures, en prenant une certaine distance vis-à-vis d'elles. Et ça, c'est indispensable, c'est pour ça que dans le christianisme, il y a une dimension de mortification, pendant l'Avent, pendant le carême, le vendredi, et puis librement quand on en a besoin, il y a une dimension de renoncement, il y a une dimension qui est beaucoup moins prêchée aujourd'hui, et qui est très importante, parce que c'est la dimension de la liberté de l'amour. Si vous êtes fiancé, vous commencez à fréquenter plein de filles qui vous plaisent aussi, c'est à peu près sûr que vos fiançailles, elles vont craquer. Hein. Si vous avez une vocation, ben, demandez qu'on vous approche de pas... Enfin, si vous en êtes sûr, qu'on vous approche gentiment, mais qu'on reste sympa, quoi, mais un pas trop près, quand même, quoi. Parce que sinon, vous mettez dans la question, vous perdez la liberté, c'est certain. Et là, notre vie, c'est ça. On aime bien les créatures, moi j'aime énormément le lever de soleil sur l'Adriatique, et toutes les symphonies qu'on peut imaginer, et tout ça. J'aime tout, les belles choses, etc., mais comme dit Saint Jean de la Croix, pour toute la beauté du monde... Moi, je ne me perdrai pas, si ce n'est pour un je ne sais quoi qu'on rencontre d'aventure. C'est une des belles poésies de Saint Jean de la Croix. Hein. C'est très beau, et il a bien vu Saint Jean de la Croix. Il faut aimer la beauté lui-même. L'aimer, il faisait des goûters avec ses carmes dans la nature, dans les montagnes d'Andalousie ou ailleurs où il était. Il faisait des goûters, il chantait des trucs. C'est très, très franciscain aussi chez les carmes. Hein. Il aimait normalement la nature, et des saints Bruno, le cadre dans lequel il a mis ses moines, c'est magnifique. Mais en même temps, si vous voulez, ces choses-là, on est tremplin pour Dieu. Donc si vous voulez, on n'est pas fasciné. La beauté, c'est un tremplin pour aller vers l'aide, vers le bien, vers le... C'est pas quelque chose qui doit nous obnubiler au point de devenir fou, quoi. Et donc, il faut prendre une certaine distance, quoi, par rapport à la beauté des choses, des créations. Mais plus on l'aimera vraiment, plus on la goûtera, vous voyez. Parce que déjà, un artiste, pour sentir la beauté de son œuvre, il doit travailler comme une bête. Pour être capable de produire quelque chose, il travaille comme un fou. Donc, comme une brute, avec des lois abominables de 10 heures de violon, de machin, tous les jours. Même s'il est un génie, et surtout s'il est un génie. Et la beauté, parce qu'il aime la beauté, il s'impose une loi. Eh bien, nous, chrétiens qui aimons la beauté spirituelle, il faut s'imposer un certain recul par rapport aux créatures pour être libre. Comme un animal sauvage, si vous voulez, est plus beau qu'un animal domestique. Hein? Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Enfin, évidemment, votre chat est adorable, surtout si c'est un angora, sauf qu'il est un peu un chien, donc ça va. Mais alors, vous avez certainement votre poisson rouge, je ne sais pas quoi, magnifique nageoire. Donc, certainement, c'est des animaux formidables et... Ça vous console des déboires de votre patron ou voire de votre belle-mère dans les cas les pires. Mais enfin, quand même, hein, c'est des animaux domestiques, quoi. C'est des montoutous et ils viennent quand on leur donne la bouffe, quoi. Tandis que si vous avez vu des daims ou des chamois, parce qu'à l'époque, on m'obligeait à monter sur des montagnes, on voyait, dans la première communauté où j'étais, on montait puis on descendait après. Vous voyez, c'est le problème de l'alpinisme, c'est que quand on monte très haut, il faut redescendre après, c'est le plus dur. Bon. Là, on voyait des chamois. Ben, rien que d'en voir un une fois, c'est quand même incroyable de voir sur quoi ils peuvent s'accrocher. Et ce qui est beau, c'est qu'ils soient libres. Ce qui est beau, c'est qu'ils foutent le camp quand on arrive, quoi. Alors, et là, on aimerait bien le toucher, le chamois, parce que ça fait doudou, quoi. Mais bon, vous voyez, et ben alors, Stoller a eu un très beau passage, justement. Il écrit que le don de crainte nous fait comme fait qu'on devient comme des oiseaux sauvages, vous voyez, qui ne se laissent pas approcher. Alors, les créatures, évidemment, nous approchent, mais il ne faut pas qu'elles nous approchent de trop près. Dans les cas graves, écrit Stoller, donc c'est un grand prédicateur dominicain du 14e siècle, qui a succédé à Eckhart et qui a un peu récupéré dans un sens plus orthodoxe sa doctrine un peu aventureuse. Donc ce qu'on appelait la mystique rhénane, hein, c'est tout un grand courant sur les bords du Rhin et autour du lac de Constance, c'est très beau courant. Dans les cas graves, la crainte de Dieu nous fait fuir, et grâce à elle, nous devenons comme un animal ou un oiseau sauvage, qui s'effarouche et fuit rapidement devant tous ceux qui veulent l'attraper ou le saisir. De même que Dieu a donné cet instinct à la nature, ainsi le Saint-Esprit donne à tous les siens cette aimable crainte pour les garder des obstacles qui peuvent le retenir loin de lui. Et c'est vrai qu'il faut faire attention à rester libre. C'est difficile d'être un homme libre. Et une femme libre, enfin, sauf celle du MLF, évidemment, mais celles-là, à mon avis, ne sont pas vraiment libres. Elles sont soumises à des conformismes. Aujourd'hui, je suis frappé, je lis ça peut-être aussi dans le même bouquin de Ratzinger, que les gens soi-disant libres portent le même blue jean depuis Hong Kong jusqu'à Lima, quoi. C'est le même... Enfin, il y a des griffes différentes en fonction du réseau sur lequel ils sont connectés, mais enfin bon, c'est une liberté très relative. Hein. Ils sont tous aussi laids, quoi. Bon, c'est une liberté dans la laideur. Mais c'est quand même pas une liberté terrible. Et la liberté, c'est quelque chose qui se conquiert, vous voyez. Donc le don de crainte, si vous voulez, nous met dans cette liberté qui fait de nous des pauvres selon l'esprit. Il semble que la Sainte Vierge et Saint Joseph et Anne et d'autres, le Siméon fait partie des Anawim, les pauvres de Yahvé, qui étaient des gens qui, en fait, insistaient sur cette dimension de pauvreté spirituelle, sans tomber dans l'excès du radicalisme des Esséniens, qui eux étaient carrément schismatiques, mais qui étaient des spirituels qui attendaient un Messie spirituel qui devait apporter un message de salut au monde, vous voyez. Donc, et non, pas simplement la libération politique à Israël. Donc, nous tâchons d'être des pauvres de Yahvé, enfin, de nous mettre sous l'influx des dons du Saint-Esprit, spécialement de ce don de crainte qui est qualifié par les pères de l'Église de racine ou de commencement de la sagesse. C'est assez impressionnant, oui. Parce que on se dit, le commencement de la sagesse serait plutôt la foi. C'est vrai. La foi, c'est ce qui nous fait rentrer dans l'univers surnaturel. Et donc, c'est ce qui va nous faire adhérer au mystère de Dieu. Ça, c'est un commencement, c'est vrai. Mais le don de crainte, c'est celui qui va nous rendre humbles, et donc va nous faire creuser les fondements. Donc c'est vraiment, plus le don de crainte va agir en nous, plus on va se rendre compte qu'il faut descendre assez bas pour vraiment enraciner notre vie. Ça ne dure pas simplement un jour. Aujourd'hui, avec les antibiotiques, c'est 90 ans. Hein. Enfin, ça dépend. Évidemment, il y a le cancer à 60 ans aussi, qui est assez classique. Mais enfin, pour beaucoup d'entre vous, c'est 90 ou 95 ans. Et donc, faut tenir la durée. Mais pas uniquement en jouant au tarot, quoi. Hein, ou je sais pas quoi, c'est un truc sympa aussi, mais d'accord. Donc faut vous occuper. Ben, faut vous occuper à quoi? Devenir ce que vous êtes. Et donc faut mettre une racine profonde. Et organiser, si vous voulez, pour que si l'arbre doit monter haut, ce que nous souhaitons, ben, la racine soit profonde. Donc vous voyez, c'est la racine, les pères comparent la crainte et l'écriture elle-même à la racine de la sagesse. C'est-à-dire, elle va descendre, chercher, plus elle sera racinée profond, hein, comme dit Peggy, l'arbre de la grâce est raciné profond. Hein, et plus elle va aller au profond, plus il pourra monter droit. Et donc, faut pas hésiter à revenir. Et dans notre vie, vous voyez, il y a un peu des nappes. Enfin, moi, je suis à un moment où je peux déjà voir une partie de ma vie. Enfin, je pense, une partie notable, certainement. Et donc, je vois qu'il y a un peu des retours, vous voyez, où on revient sur les mêmes choses, soit sur les mêmes vérités, soit sur les mêmes expériences, les rapports avec les hommes. Et au fond, on les approfondit. Et tout devient assez curieusement, enfin, c'est mon idée à moi, hein, ça devient plus neuf, plus jeune et plus... enfin, dans la charité du Christ, je crois que c'est ça. C'est-à-dire qu'au début, vous ne voyez pas les hommes. Moi, j'étais assez frappé de ça quand j'avais pas la foi. Je ne voyais pas les gens. Enfin, je les voyais assez pour leur taper dessus de temps en temps, certains. Hein. Et bon, pour discuter avec eux, mais enfin, je sais parce que je les voyais. Je les voyais. Tandis qu'avec la grâce, vous les voyez. C'est que vous vous dites, devant vous, il y a des gars qui ont une âme éternelle. Il y a, vous voyez, enfin, un prêtre qui donne la communion, évidemment, il y a un contact évidemment assez fort avec l'âme des gens qui reçoivent la communion, quoi. Sauf ceux qui ont les yeux fermés, ils sont très vieux. Mais où les gamins qui... Alors là, bon, c'est vrai que là, vous les voyez. Donc, il y a des choses que vous aviez conçues, si vous voulez, le rapport à l'altérité aux autres. Enfin, le mystère qui est des autres, c'est quand même étonnant. Hein. Les nihilistes n'admettent pas. Il n'y a pas d'autres. Il y a moi. J'ai vu récemment un bouquin. C'était le... Je sais pas quoi, l'hypertrophie du moi. Enfin, il y avait un truc ou l'histoire du moi. Alors, en effet, c'est le moi complètement bibendomique qui explose, mais qui crève de tristesse. Hein. Comme, enfin, les... Si vous lisez certaines poésies des symbolistes ou de cette période un peu à la fois efflorescente et décadente de la poésie, il y a vraiment une espèce d'angoisse qui arrive à plonger au fond du gouffre, enfer ou ciel, qu'importe, au fond de l'infini, pour trouver du nouveau. C'est Rimbaud, ça. Bon. Mais bon, c'est vrai qu'il y a une tentation. Alors, il y a, je crois que le don de crainte nous aide à revenir sur les mêmes choses, à voir les êtres humains, à voir, par exemple, la loi de Dieu. On fera l'année prochaine, si j'ai le temps de les préparer, les commandements. C'est bien qu'on ait commencé par les dons. Comme ça, on verra les commandements par en haut, du point de vue du chrétien. Mais c'est vrai qu'on les voit d'une façon différente, on les voit comme un boulevard extraordinaire. Au début, on se dit, mais merde, c'est chiant, quoi. Il faut faire ça, il faut aller le dimanche, tout. Il y a la messe et tout. Parce que la messe, c'est le dimanche.
Coucou.
Bon, alors, enfin, le samedi, vraiment, si on est quand même... Mais on n'organise pas son dimanche uniquement en fonction de la planche à voile ou du ski, hein. Je vous signale. Enfin, en passant du ski, c'est tout à fait par hasard, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Ou du baltrap ou de la chasse, quoi. La messe, c'est le dimanche, hein. Alors, le samedi, c'est presque une tolérance pour mecs débilement. Alors, évidemment, il y a les messes du dimanche soir à 7h qui sont très courues par tous les noceurs qui en sont couchés à 4h du matin. Mais disons, si vous faites ça tous les dimanches, c'est quoi votre semaine? C'est de la merde, excusez-moi. Parce que vraiment, le dimanche, c'est ce qui s'expose sur la semaine. C'est le jour de la résurrection chez les orientaux, même en plein carême, l'orthros, pof, l'évangile de Saint-Jean, le Christ est ressuscité. Et là, quand vous avez ça, toute la semaine, vous avez une force extraordinaire. Donc, votre dimanche doit vraiment être là, c'est votre semaine. Et donc ça, vous le voyez sous un autre... Au début, vous dites c'est une corvée, mais non, attends, Enfin, quand... Moi, je suis quand même frappé, les gens, ah, la messe, elle est longue. Attends, mais le rite arménien, c'est 3 heures, quoi. Le rite byzantin, quand ils sont pressés, c'est 1h30. Hein, et quand, quand le sermon est court, bon, chez nous, ben, quoi, la messe, c'est 3/4 d'heure, 1 heure, ou l'Eucharistie, canon 2, vite fait sur le zinc, 1/2 heure, c'est long, les mecs. C'est long. Mais vous êtes nuls, les gars. C'est pas long, quoi. C'est pas long du tout. Hein. Quand j'étais à Schneidzin, j'étais pas le genre. Mais les séminaires, ils disaient que le jour de Pâques, c'était 8 heures à l'église, quoi. Bon. Alors nous, d'accord, on n'a pas la proximité orientale. Mais ce qu'on fait chez les Occidentaux, c'est cool, quoi. Surtout qu'il y a des messes pour tous les goûts. Enfin, tâchez d'en prendre des vraies messes, quoi. Des messes avec le sens du sacré, avec des rites autistiennes et tout. Mais enfin, chiader votre truc, c'est quand même vachement important, quoi. Et donc, on voit plus ça comme une corvée, enfin, c'est une respiration, c'est l'Eucharistie, c'est ce qui est là. Et donc, vous voyez, ça descend profond, vous voyez. Sainte-Catherine de Sienne, il y a un truc formidable. Je dis ça pour ceux qui ont fait les exercices Saint-Ignace que j'ai fait, moi. Vous voyez, c'est l'œcuménisme avant la lettre, enfin. C'est plus que du tradit œcuménisme. J'ai fait 12 fois, 10 fois. Et donc, je les connais bien. Et c'est très beau, hein, donc, faut les faire, ça vous décapera sérieusement. Et vous en avez besoin. Surtout ceux qui croient qu'il faut pas. Ça sauve les scrupuleux, quoi. Moi, les scrupuleux, pas trop. Venez directement à la prêtre du rosaire. Les autres pouvaient faire une fois Saint-Ignace, après venez à la prêtre du rosaire. Bon, il y en a une justement à Poissy, là, il y a encore plein de choses. Donc inscrivez-vous. Mais tardez pas trop, je suis frappé que maintenant vous tardez vachement à faire votre première retraite, quoi. Vous attendez vraiment d'avoir tout résolu, les autres problèmes. Mais attendez, 4 jours, c'est rien. 4 jours pour une éternité, c'est quoi? C'est un prix misérable, mon ami. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse comme prix? C'est quoi? 4 jours, c'est fantastique, quoi. Donc, voyez, on voit les choses différemment. Alors, Sainte-Catherine de Sienne, dans Spiritualité Dominicaine, dit, voilà, le principe et fondement, c'est connaître tous ceux qui font l'exercice Saint-Ignace, eh ben, c'est d'habiter dans la cellule de la connaissance de Dieu en soi. C'est d'habiter, vous voyez, dans son âme, vous voyez, où il y a Dieu. Et donc, on est en face de Dieu, qui est tout puissant, qui est infini, qui est bon, qui est formidable, et nous, qui sommes débiles. Et donc, ça nous débile pas, au contraire, ça nous débilite pas, mais ça nous donne une force extraordinaire. Parce que Dieu nous entoure de toutes parts, vous voyez. Dieu n'est pas un concurrent qui est un gros type, gros, qui nous pousse et qui nous fait peur, parce que c'est ça, je crois, que vous avez, vous et moi, j'ai eu pendant longtemps ce que j'ai encore un peu. On a peur de Dieu en disant, il va prendre toute ma vie. Ben, je vous dis pas non, c'est un peu vrai, mais c'est bien. Sachez que c'est très bien, quoi. De toute façon, votre vie, excusez-moi, mais on vous la prendra. Hein. On vous la prendra, comment, mais on vous la prendra. Enfin, pourquoi pas. De toute façon, faut la donner, quoi. Vous dites, faut la donner. Si vous la gardez, vous serez malheureux comme des pierres. Donc, vous voyez, si vous vivez avec lui, bah, vous aurez la conscience qu'il n'est pas un concurrent, mais qu'il est vraiment quelqu'un dans lequel vous baignez, quoi. Et en même temps, il est présent en vous, et ça, c'est vraiment pour Catherine de Sienne, le principe et le fondement de la perfection. C'est-à-dire que si on s'enracine vraiment dans cette idée de cette transcendance divine, de cet amour incroyable qui nous entoure de toutes parts, qui pense à nous depuis toute éternité, enfin, avant le Big Bang, si j'ose dire, parce que la notion d'avant, temporairement, n'a plus de sens, tu vois. Il n'y a plus de matière, mais enfin bon, dans son éternité, Dieu pense à moi. Et du coup, il décide de faire le Big Bang et compagnie. Et la Sainte Vierge et tout, pour que je sois heureux dans le palais éternel dont Saint Jean de la Croix a fait un très beau poème, que j'ai traduit un roman Saint Jean de la Croix, avec où il dit il y aura un palais avec deux zones, enfin les anges et les hommes, et tout l'univers, et c'est notre étage à nous qui est quand même pas mal, hein, et qui sera transformé par la parousie de gloire, donc le Christ reviendra dans le second et redoutable avènement, pour transformer le monde entier, même physique, en élément, un des éléments qui apportera de la joie dans le paradis des élus. Vous voyez ça? C'est vrai que cette perspective-là, vous voyez, donne un sens à l'histoire, mais aussi un sens à notre vie. Et c'est fini pour ce soir. Merci bien.
Alors, on laisse quelques minutes pour les questions, si vous en avez.
J'ai une question concernant les découvertes de la science et notamment par exemple un roman d'anticipation.
Les découvertes de la science et un roman d'anticipation.
Il y a un roman qui est sorti ici parlant de cloner le Christ, justement, il y a possibilité
de cloner le Christ.
De reprendre l'ADN du Christ.
De reprendre l'ADN du Christ.
Dans un point de vue.
Alors qu'est-ce qu'il faut que tu en penses d'un point de vue quoi?
Voilà des découvertes de la science très concrètes et des applications.
Alors, ce ne sont pas des découvertes de la science parce que pour l'instant, on n'a jamais réussi un clonage humain et il n'est pas certain qu'on y arrive. Et deuxièmement, si on y arrive, on ne sait pas ce que ça va donner. Donc, c'est typiquement le genre de choses sur lequel je crois qu'il ne faut pas s'emballer parce que... Et en tout cas, pour ce qui est de cloner le Christ, ça ne marchera pas. Parce que le Christ est une personne divine. Donc, on ne peut pas le cloner. qui a été fait était unique dans Sainte-Marie. Il y a une nature humaine singulière qui est sortie de Marie et qui a été assumée par la deuxième personne de la Trinité. Et donc, il est irreproductible. Donc, on est calé, quoi, de ce point de vue-là. Mais je crois que c'est typique, vous voyez, c'est-à-dire, c'est des choses où les gens s'amusent ou se font peur avec des possibilités projetées sur des choses indéterminées au point de vue strict de la science. Oui.
Alors, je vais continuer également dans un domaine qui a trait au, qui concerne aussi la science. J'étais très intéressé par ce que vous nous avez dit de, des théories d'évolution et aussi du débat avec les créationnistes. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous pensez du débat
qui a lieu en Amérique actuellement
sur le dessin intelligent?
Oui, donc il y a aux États-Unis, enfin d'après mes renseignements, il y a un débat entre des parents qui en ont marre qu'on enseigne le darwinisme à l'école, sans quoi ils ont raison, et qui ont proposé qu'on enseigne également la théorie du dessin intelligent, dessin EIN, hein, donc le but, l'intention intelligente, qui serait présente, enfin qu'on constaterait en regardant l'ordre dans la création. Donc je pense que ses parents ont raison qu'on enseigne ce truc-là aussi, pourquoi pas. Moi personnellement, je vois pas. Le problème des créationnistes, c'est que c'est pas tellement. C'est quelquefois l'esprit dans lequel ils posent certains créationnistes, pour eux, si vous voulez, s'il y a une évolution, Dieu est éliminé. Or, ça, c'est faux. Ça, il faut dire frêlement, c'est faux. Mais maintenant, scientifiquement, le débat reste ouvert. Donc, ils ont raison, et c'est vrai, le dessin intelligent, ça se rapporte, si vous voulez, beaucoup au principe anthropique, c'est-à-dire que le monde est fait de telle manière qu'il permet l'apparition de la vie, et spécialement de la vie et de l'intelligence. Et il est le nid, si vous voulez, dans lequel Dieu peut mettre l'intelligence humaine. Et donc, ils ont raison de dire, le monde nous montre un certain nombre de données qu'on peut très bien expliquer par, je dirais même pas que c'est des théories, ce sont des approches, si vous voulez. Ce sont des approches plus que des théories, parce qu'une théorie scientifique, c'est un ensemble d'équations ou d'affirmations qui sont toutes cohérentes entre elles, qui sont appuyées sur des faits expérimentaux et qui ne sont falsifiées par aucune contre-expérience. Or, ce n'est pas le cas. Aucune théorie de la création n'a été mise en place de façon suffisante pour être cohérente, et aucun les évolutionnistes ne sont pas d'accord entre eux. Donc, il n'y a actuellement aucune théorie de l'évolution qui fonctionne. Il y a des faits qui semblent militer en faveur d'un développement successif des espèces avec un passage de l'une à l'autre qui n'est pas impossible, mais dont les processus ne sont pas encore établis. Mais il ne faut pas nier qu'on pourrait les établir un jour. Parce que les chrétiens ont peur, vous voyez, que l'établissement de ce passage, on dit l'homme descend du singe, donc il n'y a pas de Dieu. Attends, l'homme ne descend pas du singe, et de toute façon, ça n'a rien à voir avec la choucroute, même si l'homme a été tiré d'une matière, si vous voulez, hominidée préexistante, enfin, que Dieu a infusé son âme en utilisant une matière organique existante que Pidouze admet comme possible dans l'encyclique Humanis Generis, ça n'empêche que l'âme a été créée directement par Dieu. On savait que les gens imaginaient que leur arrière-grand-père, c'est un orang-outan. Mais c'est pas vrai. Leur arrière-grand-père, c'est pas un orang-outan. D'ailleurs, l'orang-outan est très gentil. Et c'est parce qu'enfin, il y a une espèce de manichéisme, si vous voulez. L'orang-outan ne serait pas le père d'Adam. Ce serait un matériau que Dieu aurait transformé, parce qu'il aurait été obligé d'intervenir, même physiquement, pour permettre l'infusion de l'âme humaine. Mais si ceci est établi un jour, je ne vois pas trop comment on pourrait l'établir, mais ça ne trouble pas la preuve de Dieu qui est d'ordre métaphysique. Et les créationnistes, là, ils ont raison de dire il ne faut pas présenter la théorie de l'évolution comme une certitude, et il faut proposer des théories alternatives, comme le principe anthropique ou le dessin intelligent, ils ont raison. Ils ont tort dans leur peur excessive du simple fait de l'évolution.
Oui. J'ai peut-être mal compris, mais il m'a semblé entendre tout à l'heure que vous parliez du péché de fragilité. Est-ce que j'ai mal compris ou...
Non, non, il n'y a pas de péché. Ah oui, si, le péché de fragilité, oui. Il y a le péché mortel, oui, qui nous fait perdre la grâce. Le péché véniel, qui est soit un péché de malice, que vous envoyez une vacherie à quelqu'un pour vous défouler, quoi. Ça, c'est un péché véniel délibéré. Ou le péché de fragilité, vous mettez un peu trop en colère. Ou un péché de gourmandise, si vous voulez, manger un peu trop.
D'une certaine manière, tous les péchés, même les péchés mortels, sont des péchés de fragilité.
Oui, si on veut, on s'entendre sur les mots, si vous voulez. Non, parce qu'il y a des péchés de malice. Il y a des gens qui pêchent, et c'est très dur pour eux de pêcher. Parce qu'il y a des meurtres qui sont très difficiles à organiser, ou des péchés très difficiles et qui demandent beaucoup de souffrance. Et il y a des gens qui les font. Il y a des péchés de malice, hein. Il y a des péchés de malice et des péchés de passion. Et à l'intérieur des péchés de passion, certains sont graves, d'autres sont véniels, et dans les véniels, certains sont délibérés, et d'autres sont semi-délibérés, parce que sinon ce ne serait pas des péchés. C'est-à-dire que quand vous mettez trop en colère, c'est que vous laissez trop aller, si vous voulez. Donc il y a un péché dans le mode, mais c'est en partie volontaire, et en partie ça vous dépasse.
Et vous avez l'air de dire, j'ai peut-être mal compris, mais qu'un péché mortel, si c'était un péché de fragilité, il était plus mortel.
Ah non. Un péché mortel, il est mortel par définition. Non, là vous confondez le péché mortel et le péché véniel, c'est une chose, c'est le résultat dans notre âme. Le péché mortel tue la grâce. Le péché véniel garde la grâce, mais affaiblit le rayonnement de la charité. Et maintenant, quand on regarde les causes, on dit, la cause c'est la passion, c'est la malice, la passion, ou la fragilité, si vous voulez, c'est des explications. Voilà. Il y a une question là-bas ? Est-ce que la crainte de Dieu est intrinsèque à la nature humaine ? Ah ! Non. Est-ce que la crainte de Dieu est intrinsèque à la nature humaine ? Ben oui, dans la mesure, si vous voulez, on est créé, on mesure sa fragilité par rapport à la bonté divine et donc la capacité qu'on a de pécher. Donc quiconque, et il est intrinsèque à la nature humaine, épanouie, c'est quelqu'un qui arrive à l'âge de raison, vous voyez. Mais justement, plus on avance dans l'amour, plus la crainte est mise dehors. Vous voyez ce que dit Saint Jean de la Croix, l'amour dans sa perfection chasse la crainte dehors. C'est-à-dire que plus on est uni par Dieu avec l'amour, plus la crainte, évidemment, va s'effacer. Mais elle est quand même intrinsèque au fait qu'on est créé. Et je crois que même un sauvage, d'une façon un peu mystérieuse, a la crainte de Dieu, parfois il l'a trop. Parce qu'il sacrifie à des dieux hypothétiques ou à des choses bizarres, parce qu'il a peur de l'au-delà. C'est une crainte, si vous voulez, qui inhibe. Enfin, c'est une crainte qui détruit, quoi. Et ça, le christianisme nous libère de la crainte irrationnelle du divin. Parce que pour nous, le divin, c'est Dieu qui est bon. Tandis que dans les religions animistes, il y a une crainte irrationnelle. On a peur de tous les démons, de toutes les puissances, qu'on s'associe par des sacrifices quelquefois douteux, par des sorcelleries, par des... Alors là, il y a une crainte excessive.
Alors...
Merci, mon père.
Alors, on a... En fait, on... Exceptionnellement, on a fait venir quelqu'un qui représente en fait un groupe de personnes qui était venu il y a un ou deux ans et qui a parlé de son activité qui entre réellement en complément avec les soirées du Café-Café où l'on reçoit et lui donc propose de donner en faisant de l'évangélisation de rue. Et donc, je laisse la parole, Frédéric.
Et donc, c'est un peu de...